Vous écoutez
RMC.
RMC.
Moi, je pense qu'on n'a plus des grands artistes. Il n'y a plus de Salvador Dali. Il n'y a plus de Andy Warhol. Je pense que les footballeurs aujourd'hui, c'est les grands artistes de cette société.
Le vrai Tchouaméni, je pense qu'il a sa place en tant que titulaire au Real Madrid. Et je suis sûr. Enfin, je suis sûr. Non, je ne suis pas sûr. Mais
je ne sais pas pourquoi. J'allais dire le mot en anglais, mais pourquoi
comment ils peuvent s'en sortir, sauf à penser qu'on n'a pas pensé, justement, que la direction sportive n'a pas pensé cet été à ce qu'il fallait, là où il fallait renforcer l'équipe.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Et bonsoir à toutes et à tous. Bonjour à toi qui nous écoute au podcast Génération After spécial Drôle de Dame, à la radio sur RMC, à la télé sur After Foot TV, la seule émission à la radio française qui parle pendant deux heures de football étranger, surtout quand la légende Antoine Griezmann fait ses adieux à Madrid et à l'Europe dans un grand moment d'émotion. Pour l'Espagne, justement, une drôle de dame qui fera ses adieux à l'Espagne quand il aura posé la mauvaise question à José Mourinho. Bonsoir, Edgar Grollo.
Salut Nico, salut tout le monde.
Pour l'Italie, une drôle de dame qui fera ses adieux au football quand l'Italie rejoint une Coupe du Monde. Il a un peu de temps encore. Bonsoir, Daniele Manoucia.
Bonsoir, j'espère bientôt alors.
Bientôt, on espère. Pour l'Allemagne, une drôle de dame qui fera ses adieux au football quand le football deviendrait une machine à fric et vendu à des fonds de pension américains. Ah, mais c'est déjà le cas, il est toujours là pourtant. Bonsoir Polo.
Mais détrompe-toi, je suis parti depuis bien longtemps. Salut, bonjour tout le monde.
Julien Laurent, ça arrive dans un instant. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, un problème de ligne. Mais il arrive. C'est une promesse dans quelques secondes dans Génération After. De quoi allez-vous nous parler ce soir, les drôles de dames? Je commence avec toi, Edgar.
Alors c'est inévitable, on va débattre tous ensemble de l'arrivée de Mourinho, justement, t'en parlais, au Real Madrid, qui est quasiment acté. On fera le point aussi sur la lutte pour le maintien en Espagne. Le FC Séville est maintenu, incroyable, miraculeux. Et maintenant c'est Gérone qui est vraiment menacé. Et puis petite séquence émotion avec les adieux d'Antoine Griezmann et de Robert Lewandowski.
Daniele.
On va parler de la Juventus, qui s'est auto-sabordé, je ne sais pas comment on dit. De la Roma, c'est un miracle si elle va en Champions League. Lecce, c'est un vrai miracle. Et après, on va faire une petite minute sur qu'est-ce qui s'est passé autour du derby de Rome.
Polo.
Bon, évidemment, on va revenir sur ce qui s'est passé à Francfort, puisque quasiment dès la fin de la rencontre du match de Francfort, le coach Riera a été démis de ses fonctions, y compris le staff. Olise a été élu joueur de Bundesliga 2025-2026. Je pense qu'il y a quand même au minima un débat sur le choix du français.
On va le faire.
Fribourg, évidemment, qui va jouer le match le plus important de sa carrière, de son histoire, pardon, mercredi, contre les favoris anglais d'Aston Villa. Et puis j'ai oublié, il y a encore quelque chose que j'ai
non, c'est pas Manuel Neuer, on va en parler aussi. Manuel Neuer
évidemment, parce que c'est le grand débat en Allemagne.
Voilà pour les trois points de Polo. Pour l'Angleterre, une drôle de dame qui fera ses adieux au monde du football dans deux semaines. Si Arsenal est champion d'Angleterre et Paris double vainqueur de la Ligue des Champions, il pourra mourir tranquille. Bonsoir Julien Laurence.
Salut Nico, salut à tous.
Non, tu resteras avec nous quand même, hein, tu auras bouclé la boucle, mais il faut travailler, il faut manger. Julien, de quoi tu nous parles ce soir?
Alors on va revenir sur la finale de la Coupe d'Angleterre, bien sûr, samedi, la victoire de City contre Chelsea, l'avenir de Pep peut-être, en tout cas celui de Xabi Alonso, on sait où il est puisqu'il arrivera donc à Chelsea le 1er juillet. On parlera de cette fin de saison incroyable en Écosse avec Hearts et Celtic, Liverpool et Mo Salah aussi, et puis on aura une minute suite par rapport à lundi dernier et l'émission de la semaine dernière.
On est ensemble jusqu'à 22h, puis Jean-Louis Tour prend le relais avec l'After. Salut Jean-Louis.
Salut Nico, salut tout le monde.
De quoi on parle ce soir?
On va commencer le grand bilan de la saison de Ligue 1, on va le faire tout au long de la semaine et on va débuter par le champion et la célébration du titre, puisque Daniel veut absolument revenir sur ce qui s'est passé à Jambouin avant le match entre le Paris et le PSG. En plus de ça, on se demandera ce qu'il faut retenir de la saison de Lyon, entre la 4e place et les deux dernières journées où Lyon pouvait espérer mieux. Et puis on parlera quand même du Real et on aura en direct la liste de Carlo Ancelotti pour le Brésil. Oh. Pour la Coupe du Monde. Neymar, pas Neymar, Thiago Silva, pas Thiago Silva. On saura tout dans l'After.
Merci Jean-Louis, à tout à l'heure, hein, comme tous les soirs, jusqu'à minuit. C'est parti avec les drôles dames. José Mourinho devrait donc être le nouvel entraîneur du Real Madrid et quitter le Benfica Lisbonne. Aïe, devrait signer un contrat de 2 ans. Pourquoi aïe 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 Edgar?
Ça fait peur quand même, je pense, en 2026. Les supporters du Real aujourd'hui, ils savent pas à quoi s'attendre avec José Mourinho.
Il est tapé, il est démodé, il est ringard.
Écoute, je pense qu'en 2026, José Mourinho n'est pas capable d'être l'architecte d'un grand projet. Maintenant, peut-être qu'aujourd'hui, au Real Madrid, t'as pas besoin d'un architecte, quoi. Peut-être que t'as besoin d'un bulldozer. Et ce rôle-là, je suis sûr que José Mourinho est capable de l'avoir. Donc, je pense que c'est un constat qui a été fait par la direction. Et le constat, il est que les fondations de ce groupe, de cette équipe, elles sont vraiment mauvaises et qu'il faut repartir de zéro. Parce que, clairement, tu vas pas avoir un jeu exceptionnel en deux mois, ni tous les conflits d'égo gérés en deux mois non plus. Donc, tu dois d'abord faire le ménage avec José Mourinho et je pense ensuite commencer une nouvelle ère. Est-ce que à l'instant T le choix José Mourinho est ultra enthousiasmant? Moi je pense pas. Par contre, est-ce qu'il y avait beaucoup de meilleurs choix?
Non, c'est ça la question.
Sauf s'il y avait Jürgen Klopp qui sortait et disait en fait finalement ça m'intéresse. Je pense qu'il y a aucun nom qui aurait mis tout le monde d'accord.
On a parlé de Deschamps il y a un mois aussi, Edgar. Sauf qu'il aurait fallu attendre une fin de Coupe du Monde et pour reconstruire c'est pas le mieux.
Il y a un problème de timing avec Didier Deschamps, donc si t'estimes que tu dois faire le ménage, pourquoi pas José Mourinho? Pourquoi pas? Je pense qu'en fait il y a tellement de choix à faire qu'il faut absolument quelqu'un qui va trancher. Et José Mourinho, ça, on est tous d'accord sur le fait qu'il est capable de trancher. Alors est-ce qu'il a toujours raison? Ça c'est une autre question, mais il est capable de trancher. Et je pense que il va y avoir des choix très difficiles à faire et il y aura même des choix injustes à faire cet été. T'auras des joueurs qui devront partir alors qu'ils sont au niveau, et t'auras des joueurs qui devront partir alors qu'ils ont une bonne attitude.
Attends. Il faut des noms quand même. Si ça, on spécule un peu, quels sont les joueurs qui pourraient partir et qui sont au niveau aujourd'hui, selon toi?
Qui sont au niveau? Par exemple, hein, on parlait la semaine dernière de Fede Valverde. Alors je sais pas si José Mourinho choisira le départ de Fede Valverde ou d'autres joueurs, mais si on regarde par exemple tout simplement au milieu de terrain. On est tous d'accord qu'au milieu de terrain, il va falloir changer des choses au Real Madrid. Mm-hmm. Bon, tu prends Tchouaméni, Valverde, Bellingham, tu peux même ajouter que Nico Paz est censé revenir, etc. T'as des joueurs finalement qui ont, je pense, le niveau du Real Madrid. Mais est-ce qu'ils sont complémentaires? Non, ils sont pas complémentaires. Et je pense que la construction de l'effectif a été extrêmement mauvaise et que donc aujourd'hui, tu vas devoir faire des choix entre des joueurs qui ne sont pas complémentaires. Devant, est-ce que tu arrives à faire jouer Vinicius et Mbappé ensemble ou est-ce que tu fais un choix? Et ben, si tu fais un choix, tu vas devoir virer quelqu'un, et ce sera pas Mbappé, tu vas devoir virer quelqu'un qui pourtant a le niveau pour jouer au Real Madrid. Donc, dans tous les cas, tu vas avoir des joueurs, et t'auras d'autres joueurs qui ont juste pas le niveau pour être au Real Madrid, mais qui ont une bonne attitude. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais dans tous les cas, il va y avoir des choix qui seront discutables, qui seront discutés, qui feront pas du tout l'unanimité. Mais, au bout d'un moment, il va falloir les faire. Parce que là, il y a trop de joueurs qui sont pas compatibles. T'as un effectif qui est trop mal construit, et ça, c'est la base du problème. Et, Pourquoi pas avoir un José Mourinho pour faire le ménage et qui a, s'il y a bien une chose qu'on peut pas lui reprocher, c'est d'avoir un manque d'expérience. Non, lui, il a l'expérience et il peut, pourquoi pas, avoir l'expérience de faire ce genre de choses.
Donc, tu prends un éducateur expérimenté qui va gérer un club qui est en plein désordre actuellement, gérer des égos aussi, mettre de l'ordre, en faire partir certains.
Mettre la bonne attitude.
Ouais, également. Daniel, je t'en réagir depuis tout à l'heure, là. Tu poses quelques petits cris, là. T'as l'air sceptique.
Alors, moi, je suis la dernière dans l'Ordre des Dames. Je pense qu'il y a eu Mourinho dans son championnat.
Et t'as gagné une Coupe d'Europe avec Mourinho dans ton championnat.
Oui, mais alors déjà on l'a gagné dans la souffrance totale. On a fait la voie crux de la Conference League, quoi. On a souffert contre toutes les équipes en finale, en demi-finale. Et il n'y avait pas de jeu. Il a jamais fait de jeu. Il a jamais géré l'équipe. Là, quand il a perdu, il a pris, je me souviens pas, six buts, je pense à Bordeaux. Et il a viré toute l'équipe, donc Calafiori. Donc Mourinho, c'est la raison pour laquelle Calafiori, il est plus un joueur de la Roma. On l'a vraiment viré. On a même pas gagné de l'argent avec lui. Et il a divisé les supporters parce que c'est un entraîneur diviseur. Il fait de polémique même quand il y en a pas parce que comme ça, il y en a quelqu'un qui vend de son côté. Il y aura forcément quelqu'un qui va de l'autre côté. Mais lui, ça lui l'intéresse pas parce que les vrais supporters, ils seront avec lui. Il va toujours, vous allez voir, il va le faire tout de suite. Il va faire un discours de vrai Real Madrid, les vrais supporters. Il y a des gens qui aiment pas les Real Madrid, qui sont dedans le Real Madrid. Il va faire la guerre.
Alors, Beloa l'a fait aussi et ça a pas marché.
Oui, mais parce qu'il n'a pas la carrure de Mourinho, bien sûr. Mourinho, il a quand même sa carrière derrière, il a son charisme. C'est quelqu'un de charismatique aussi, encore. Mais au niveau de football, il a rien donné à la Roma. Il va rien donner au Real Madrid non plus.
Il a rien donné à Fenerbahçe. Il n'a pas donné grand chose au Benfica Lisbonne également. Il semble dépassé tactiquement. Je fais un tour de table avec vous, les drôles de dames, bien sûr. Mourinho, tu l'as rappelé plusieurs fois déjà, Edgar, depuis la rumeur Mourinho. Il y a un an, le Real fait le choix d'un Xabi Alonso avec une ambition jeu également, structure, la durée. Là, n'est-ce pas trois pas en arrière que fait le Real et Florentino Pérez? Je vais poser la question à Julien, tiens. Qu'est-ce que t'en penses, Julien?
Alors moi je signe tout de suite en étant neutre et j'ai envie de voir ce que ça va donner, si ça marche, si ça marche pas. Je pense que c'est popcorn.
Toi, ça t'excite, quoi. L'idée t'excite.
Voilà,
ça.
Exactement. Hollywood, mais je pense que ça doit exciter n'importe quel fan de foot.
Oui, bien sûr. Mais nous aussi, journalistes.
Des supporters du Real, qui eux peuvent se faire du souci parce que je pense que toutes les craintes qu'on a aussi sont tout à fait légitimes quant au retour de Mourinho à son âge. Il faut quand même rappeler que même si Daniele a parlé de son temps à la Roma et de tout ça, ça fait quand même longtemps qu'il n'a pas gagné quelque chose de significatif, entre guillemets. Je sais que pour la Roma, ça voulait dire beaucoup, cette Coupe d'Europe, et c'est très bien comme non, ça. Mais tu vois, on est tous d'accord pour dire qu'il a quand même plus passé sa meilleure époque qu'elle n'arrive, qu'elle n'est devant lui, en fait, quand même. Donc moi, j'ai envie de voir ça. Après, j'y serais pas allé, personnellement, mais quand tu connais le rapport entre Florentino et Mourinho et Tonton Georges, faut quand même pas oublier le rôle de Tonton Georges là-dedans. Hein. Si Georges Mendes n'est pas l'agent de Mourinho, je suis pas persuadé qu'il
revienne. Tu serais pas allé à la place de Mourinho, c'est ça que tu dis?
Non, à la place du Real, j'aurais pas choisi Mourinho,
c'est une aubaine, c'est incroyable pour lui ce qui lui arrive là.
Ça c'est clair.
Je pense que s'il y avait un autre entraîneur qui était dispo et qui était beaucoup plus évident, la question Mourinho, elle serait même pas rentrée dans un coin de leur crâne. Hein. Mais même avec tout ce qui s'est passé autour de Vinicius il y a quelques mois, je me souviens, il y avait un changement dans l'esprit des supporters du Real Madrid. Certains voulaient qu'il revienne, mais une semaine après, il y a plus personne qui voulait qu'il revienne. Donc est-ce que ça aussi, on va réussir à passer à autre chose? Est-ce que Vinicius va lui pardonner? Enfin, il y a tellement de choses qui poussent à croire que c'est un risque énorme, que je pense vraiment que ça s'explique aussi par le manque de possibilités sur le marché des entraîneurs, tout simplement.
Mais dis-moi, Edgar, il y a aussi une élection très anticipée, hein, voulue par Florentino Pérez pour la présidence du Real Madrid. Qu'est-ce que ça implique? Choisir Mourinho avant une élection, même si a priori il n'y a pas trop de suspense sur l'homme qui remportera cette élection pour la présidence du Real?
Oui, ça peut jouer. C'est sûr que le timing est particulier parce que les candidats ont jusqu'au 23 mai pour candidater et pour officiellement se présenter pour les élections. Est-ce que Enrique Riquelme, qui est son potentiel principal opposant, va se présenter? C'est possible. Mais est-ce que d'ici là, Mourinho, ce sera officiel? Probablement pas, parce que le 23 mai, c'est samedi. Et on peut imaginer quand même que le Real Madrid va attendre la fin du championnat pour annoncer officiellement l'arrivée de José Mourinho, même si c'est déjà quasiment acté. Donc c'est assez particulier parce que est-ce que le président actuel va nommer un entraîneur tout en étant potentiellement en pleine campagne? C'est spécial. Et d'ailleurs, il y avait quelques médias, même si ça n'a pas été extrêmement repris, il y avait quelques médias qui mentionnaient même que Riquelme, le potentiel opposant, discutait avec Jürgen Klopp. Mais bon, ça, vous savez, c'est comme les élections au Barça où ils disent tous qu'ils parlent avec Lionel Messi. Hein. C'est toujours à prendre avec des pincettes.
Bon, voilà. Je sais pas si. Est-ce que vous avez des idées, vous, hors Klopp, hors Deschamps, qui auraient pu. Des profils qui auraient pu prendre le banc du Real? Polo, toi, t'aurais des idées ou pas? Parce que, sincèrement, ce dont on se rend compte, en fait, c'est que c'est quasiment un choix presque par dépit, presque un choix même doudou pour Florentino Pérez, quoi.
Bah, j'ai pas comme ça de nom.
Non, on n'a pas, il n'y a pas.
Chapeau,
si, Pochettino. Pochettino, c'est l'autre, gros. D'ailleurs, c'est un.
T'as raison.
C'est un des candidats pour Florentino depuis très longtemps. Le problème, c'est la Coupe du Monde aussi, même si les États-Unis, ils n'iront pas jusqu'au bout. Et je serais surpris de les voir même encore en Coupe du Monde début juillet. Donc, à un moment, je comprends pas, moi, pourquoi ou alors peut-être que cette solution a aussi été étudiée et que finalement, ils ont préféré Mourinho pour des raisons qu'ils expliqueront peut-être un jour. Mais Pochettino, ça reste quand même l'autre grand candidat sur lequel ils auraient pu se pencher.
Mais Mourinho,
je pense que la crise à la fin est devenue trop grave.
Tu dis quoi, Polo? Excuse-moi.
Il est capable de faire un coup au Real. Il l'a fait à Benfica. Hein. Benfica était en grande difficulté en Ligue des Champions. Il arrive, il annonce quand il prend le club qui va se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions. Il le fait. Il finit championnat, certes pas champion, mais il est invaincu. Moi, le grand Mourinho, ça date peut-être de 2009, quoi, avec l'Inter. Donc, je suis même pas sûr que Chelsea soit dedans et tout ça. Et on peut pousser à la rigueur, c'est qu'en 2012, le titre en.
Ouais, le deuxième,
je me rappelle bien avec le Real. Ouais. Mais ça fait quand même longtemps. Et moi, ce qui m'intéresse chez Mourinho, c'est justement, il ne produit plus de jeux. Et d'ailleurs, plus les années passées, plus ou moins il en produisait, mais ça l'empêchait pas de construire son palmarès et de continuer avec la Roma, notamment en, même si c'était assez dramatique. Enfin, n'oublions pas le discours de l'époque. La Roma ne gagnait jamais rien. Et avec Mourinho, il arrive, il y a à nouveau une C4, même si elle est, même si c'est ridicule comme compétition. Donc c'est moi là-dessus, c'est ça qui m'intéresse. Mmh. Est-ce qu'il va être capable, entre guillemets, de sucer la roue du Barça saison 2026-2027 en faisant tenir l'équipe, en bétonnant dans tous les sens, et puis pourquoi pas dépasser le Barça. Mais j'en sais rien. Enfin, mais ça peut être que le scénario intéressant. Maintenant, sur le long terme, je crois que Mourinho n'en a strictement rien à faire.
Ouais. Non, mais je pense même pas, même si je comprends l'interrogation, Polo, mais je pense même pas que c'est sur ça qu'il va être jugé. Je pense qu'il va être jugé sur le fait de ramener un certain état d'esprit dans cette équipe, le fait d'avoir fait le tri et d'avoir remis, on va dire, le club sur les bons rails. Et après, ce sera quelqu'un d'autre de faire le reste du boulot, parce que je n'imagine pas un Real Madrid qui, dans 3 ans, est toujours coaché par José Mourinho. Et je pense qu'à un moment, les résultats finiront par faire qu'il quittera la Maison Blanche. Ou alors il y aura une embrouille, c'est aussi très probable. Mais je pense que son vrai défi, c'est surtout de remettre de l'ordre dans tout ça.
Voilà, Pascal le grand frère, José le grand frère. Voilà pour le Real Madrid. RMC 20h16 et Drôle Dames sont là jusque 22h, bien sûr. Tiens, je vous rappelle également la Coupe du Monde approche désormais. Nouveau jeu sur RMC, la liste des 26 cadeaux pour profiter de la Coupe du Monde. Vidéoprojecteur, écran, barre de son, maillot des Bleus, baby foot, beaucoup de cadeaux différents qui se gagnent jusqu'au 29 mai sur RMC. Au moment du top inscription, vous aurez 5 minutes pour envoyer liste au 732-16, liste au 732-16 que je donnerai dans la soirée, bien sûr. Alors Julien, Liverpool, comme la saison est longue pour les Reds, battu salement par Aston Villa samedi, 4-2, qui valide au passage la qualif pour la prochaine Ligue des Champions des Villans, ce qui n'est pas encore le cas de Liverpool qui joue avec le feu, 5e à une journée de la fin. Mon cher Julien, avant qu'on parle de Salah et de son tweet qui fait beaucoup réagir, raconte-moi un peu ce naufrage déjà sur la pelouse d'Aston Villa.
Alors, j'ai vraiment pas envie de me répéter par rapport à ces dernières semaines, mais malheureusement, et c'est pas que j'ai envie de m'acharner sur Liverpool, enfin surtout sur Arne Slot plus que sur Liverpool lui-même. Mais à un moment, je suis désolé, moi, il y a des moments en seconde période dans ce match-là contre Aston Villa, qui est quand même un match très important. Alors Liverpool finira peut-être dans le top 5 quand même, et ça dépendra du résultat de Bournemouth demain contre Manchester City. Puis il y aura une dernière journée derrière, donc peut-être que finalement cette 5e place, elle est pour eux, et ils seront quand même en Ligue des Champions la saison prochaine. Ça se trouve, même s'ils finissent 6e, ils pourraient être... Bon, bref, on leur souhaite en tout cas qu'ils soient en Ligue des Champions la saison prochaine. Mais j'ai trouvé ça embarrassant par moments en seconde période. La faiblesse de cette équipe, la médiocrité de cette équipe, collectivement, individuellement, bien sûr aussi, d'être mené à un moment en 4-1 par une équipe d'Aston Villa qui, ce soir-là, a très bien joué vendredi soir, mais qui quand même restait sur des matchs pas non plus flamboyants et pas non plus super convaincants. Donc pour moi, cette équipe de Liverpool, comment un petit peu l'a expliqué Salah finalement, et d'ailleurs Slot aussi l'a expliqué dans ses interviews d'après-match, s'est écroulée. Elle s'est écroulée complètement, mais en fait elle s'écroule depuis le début de la saison, elle s'écroule régulièrement. Et c'est le niveau qu'on voit assez régulièrement aussi. Certaines individualités en tout cas peuvent parfois sortir un petit peu du lot, faire quelque chose d'un petit peu spécial, mais collectivement je trouve ça catastrophique trop souvent, malheureusement pour eux. Individuellement derrière, ça ne suit pas, et dans l'attitude et dans les comportements et dans le niveau global d'un joueur de cette qualité là ou de ce genre de joueur là par exemple. Et pour moi finalement cette deuxième, surtout cette seconde période contre Aston Villa, elle est à l'image de la saison. Très bien. Le club maintenant a fait le choix de garder Arne Slot la saison prochaine. Je l'ai déjà expliqué, j'en ai déjà parlé plein de fois. Moi, je comprends pas. J'aurais pas du tout fait ça. Xabi Alonso était sur le marché. Il ne l'est plus. Mais lui, en tant qu'ancienne légende du club, était sur le marché. Ils ont préféré de garder Arne Slot. On a expliqué, je crois, la semaine dernière ou la semaine d'avant. Il considère qu'il a encore un petit peu de crédit dû au titre de la saison dernière. Très bien. Et encore, on pourrait regarder la saison dernière et le titre. Liverpool est la meilleure équipe du championnat. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais à partir de février, c'est quand même très, très compliqué, même ce qu'ils font en championnat. Mais bon, bref, ils sont champions. Ils gardent du crédit. On verra bien la saison prochaine. J'espère me tromper pour tous les supporters de Liverpool. Ceux que je connais, ceux que je connais pas. J'ai envie qu'ils réussissent. Mais moi, j'y crois pas. Mais après, on verra bien. Ce qui est encore plus intéressant maintenant, tu l'as dit, Nico, c'est la réaction après match de Mohamed Salah. Parce que Mohamed Salah ne parle pas beaucoup. Déjà, quand il tweet, alors il tweet ou il pose des trucs sur Instagram, c'est soit ses abdos, soit lui à la salle de gym, ce qu'on veut. Mais des trucs comme ce qu'il vient de faire là, jamais, ça c'est une dinguerie pour lui.
Je vais rappeler Julien ce qu'il a posté hein, comme message. Il dit, je veux voir Liverpool redevenir l'équipe d'attaque heavy metal. Forcément, tout le monde pense à l'allusion Jürgen Klopp, que les adversaires craignent et redevenir une équipe qui remporte des trophées. C'est le football que je sais jouer et c'est l'identité qui doit être retrouvée et préservée pour toujours. Ça ne peut pas être négociable et tous ceux qui rejoignent ce club doivent s'y adapter. Là, il y a même pas, c'est même, je dis une allusion, c'est même pas une allusion, mon cher Julien. Il utilise Klopp pour taper sur Slot.
Sans même mentionner le nom de
Slot. Ni de l'un ni de l'autre,
ouais. Ouais, ni de l'un ni de l'autre, t'as raison, mais encore moins de Slot, bien sûr, qui est effectivement tout le message, en fait, que ce soit sur X ou sur Instagram. D'ailleurs, c'est les chiffres de retweet, de repost, je sais pas comment on dit, de tu vois, d'interaction, c'est des 15 millions, on en est à 51 000 retweets sur X, enfin, c'est un niveau incroyable. Même si beaucoup ici en Angleterre ont traité un petit peu, on considérait ça, c'était un petit peu égoïste de sa part, notamment Wayne Rooney l'a un peu critiqué.
Bah, complètement.
Qu'il n'a pas à faire ça.
Julien, t'es pas d'accord avec ça? Le timing. Alors, mais après, dernière choses. Journée décisive pour la Ligue des Champions, envoyer un feu comme ça, c'est pas digne d'un mot Salah quand même.
Peut-être, mais je pense que c'est aussi parce que ça le touche de voir son équipe comme ça. Au-delà même de sa situation personnelle à lui, il quitte le club dans, il lui reste un match, il quitte le club dans une semaine. Qu'il joue ou qu'il joue pas maintenant, je pense que ça l'importe peu finalement. Il parle, je pense que la situation actuelle, elle lui fait du mal. Déjà à lui, je pense qu'il la vit très mal.
Qu'il le fasse en fin de saison après la dernière journée.
Oui, peut-être, ou en privé en tout cas. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et c'est pour ça que je suis d'accord dans un sens qu'on puisse dire qu'il est effectivement égoïste là-dessus et qu'il aurait pas dû faire ça. Je pense qu'on peut aussi le voir de l'autre côté en disant, mais ça le touche beaucoup et c'est un club qu'il aime et pour qui il a envie de voir des meilleures choses et c'est pas le cas et donc il pousse un coup de gueule comme on aurait tous pu le faire et comme beaucoup de supporters d'ailleurs qui sont pas Mo Salah, qui ont pas non plus le reach de Mo Salah, donc qui peuvent tu vois qu'on son genre de je sais même
tu veux dire l'influence de Mo Salah en tout cas
voilà ça, exactement merci
bien ouais, sûr
tout à fait mais après lui il a parlé en tant que supporter.
Et oui, mais il n'est pas supporter Mo Salah, faut qu'il le comprenne.
Mais il est supporter, Nico.
Dizaines de millions de followers et de fans de Liverpool sur les réseaux. Quand il fait ça, franchement, il fragile. En plus, Julien, la réalité, c'est que ce message est liké par beaucoup de coéquipiers également, quoi.
Pour moi, c'est plus ça le problème. Enfin, le problème, c'est pas un problème, puisqu'ils sont d'accord avec moi. Donc, je suis super content finalement que Mo Salah et tout le monde, puisque ils doivent écouter l'after et ils répètent un peu ce qu'ils vivent au jour le jour et ce qu'on dit nous. Mais et finalement, parce que Slot peut dire, mais Salah, il s'en va, il est un peu aigri, je peux le comprendre, c'est pas la fin de sa carrière à Liverpool qu'il espérait, tout ça, je peux très bien le comprendre. Mais que des joueurs importants du groupe actuel, certains vont partir, d'autres vont rester, soient clairement d'accord avec Salah, sinon tu likes pas, tu réponds pas, tu retweets pas, enfin, je sais pas, peu importe ce qu'ils ont fait. C'est là, pour moi, c'est là qui fait le plus mal à Slot, finalement. Et ça, moi, sincèrement, hein, je sais pas comment.
Mais
je sais
comment, pas comment ça va être tenable pour Slot également aussi saison prochaine.
Ah, complètement,
Julien.
Complètement.
Fragiliser légitimité, et fragiliser aussi. Toi, tu nous dis ce soir que c'est fait, c'est quasiment fait. Il sera l'entraîneur de Liverpool la saison prochaine, Arne Slot. Hein, parce que
oui, c'est ce que le club brise.
Aucune officialisation pour l'instant.
Non, c'est pas officiel, mais c'est ce que lui a dit. Il lui reste encore un an de contrat. Il finit en
2027.
En juin 2027. Ouais, c'est ça. Au club, on nous briefe aussi que ce sera lui l'entraîneur la saison prochaine. Comme je l'ai expliqué un petit peu déjà, qu'il a gagné le droit finalement d'oublier cette saison décevante, parce qu'elle est décevante, la saison actuelle. Et en se rappelant de la saison dernière qui avait été beaucoup plus réussie avec le titre de champion et qui repart pour cette troisième saison, on verra comment ça va se passer, le groupe est en transition, le club est en transition, ils vont encore investir, ils vont encore recruter des joueurs, etc. Et que c'était pas facile. Bref, tout ce qu'on a déjà raconté. Je veux bien. Moi, je vois aussi très bien le scénario où au mois de novembre, ça a mal commencé et il dégage. Et ça, pour moi, t'auras perdu 4-5 mois finalement, alors qu'on aurait tous pu le voir venir. Certains, oui, comme moi, le voient venir. Peut-être que je me trompe. Et encore une fois, j'espère me tromper pour tous les supporters de Liverpool qui nous écoutent. S'il arrive à changer encore une fois la dynamique de ce groupe-là, de cet effectif-là, de cette équipe-là, de regagner, etc. Très bien. Bravo. Je vais voir comment il va le faire.
Toi,
et s'il le fait, chapeau. Mais
toi,
moi, j'y crois.
Tu
pas.
N'y crois absolument pas. On va suivre ça, bien sûr. Il sera délesté quand même de l'ombre très envahissante d'un Mo Salah qui va donc quitter Liverpool dans quelques jours. Tiens, première minute de la soirée. C'est parti. Elle est allemande. On envoie la musique, Polo, pour Polo.
Est-ce que
que c'est l'année des femmes en Allemagne. On a appris en cours de semaine l'officialisation d'un pseudo secret que Madame Krüger allait prendre le poste de la direction sportive d'Hambourg à partir du mois de juillet. Elle est en provenance du Bayern Munich et c'est très très important parce que dans le modèle allemand elle n'est même pas directrice sportive, elle est celle qui va gérer l'ensemble du sportif du club d'Hambourg, donc les professionnels mais aussi le centre de formation, etc. C'est un poste très très important, y compris pour les transferts évidemment. Et donc la chanson c'était maintenant ou jamais. Alors je ne sais pas comment ça va être perçu dans l'avenir, mais je me demande en fait si les Allemands n'ont pas tout simplement appuyer sur l'accélérateur, pour faire avancer des femmes tout simplement dans l'organigramme des clubs allemands. Donc on a vu Marie-Louise Etta évidemment du côté de l'Union de Berlin, hein, qui était la première femme coach, hein, même si ça risque de ne pas continuer. Et puis on va voir si Madame Krüger va réussir à Hambourg, parce qu'il y a beaucoup de travail évidemment pour se maintenir l'année prochaine.
La question c'est, est-ce que c'est une volonté politique des clubs allemands ou simplement ils sont face à des personnes compétentes qui veulent promouvoir.
J'ai pas eu le temps d'en parler cette année. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle va succéder en fait à Stefan Kunz, qui est évidemment l'ancien champion d'Europe 1996 et qui est une figure du football allemand, mais qui est aussi a eu des petits problèmes relationnels avec les femmes dans le club d'Hanovre, se pose la question si ça ne va pas être en fait des choix stratégiques comme ça. Je me méfie beaucoup évidemment de la politique à ce niveau-là, parce qu'il faut juger la personne sur ce qu'elle fait. Moi je souhaite qu'elle construise un club très performant à Hambourg, et évidemment ils peuvent le faire, mais j'attends de voir les résultats.
Voilà pour la minute de Polo. Dans un instant, nous allons parler de... Ah, c'est le top inscription, c'est bien ça. Vous avez 5 minutes désormais pour envoyer liste au 732-16, liste au 732-16, tenter de gagner parmi les 26 cadeaux, vidéoprojecteur, écran, barre de son, maillot des bleus, babyfoot, liste au 732-16 pendant 5 minutes. Et nous, dans un instant, on parle de la Juve qui risque de tout perdre cette saison, en tout cas une place en Ligue des Champions la saison prochaine. Daniele nous raconte tout ça. Et puis on parlera d'un certain Albert Riera. C'est déjà terminé pour lui à Francfort. Tiens, chronique d'un échec annoncé. A tout de suite sur RMC avec les drôles de dames.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec les quatre drôles de dames, Edgar Grelot, Julien Laurence, Paulo Breitner et Daniele Manoucia, ensemble jusqu'à 22h. Bien sûr, n'hésitez pas à envoyer vos messages également sur le numéro WhatsApp d'RMC 0612 424 424, hein, vos questions, vos remarques aux quatre drôles de dames. Alors Daniele, on a parlé la semaine dernière de l'effondrement du Milan qui a peut-être sécurisé, je dis peut-être, restons prudents, son ticket pour la prochaine Ligue des Champions ce week-end en gagnant à Gênes. Naples aussi, c'est fait, sera en C1, mais la Juve, elle, est en train de se saborder violemment. Défaite contre la Fiorentina à domicile qui relègue la vieille dame à la 6e place à une journée de la fin. Effondrement total.
Oui, c'est incroyable. Ils sont glissés de la 3e place à la 6e. Il y a 3 journées, ils étaient à plus 5 sur la Roma. Ils ont fait match nul contre Verona il y a une semaine et ils ont perdu contre la Fiorentina qui n'avait aucune motivation à part la rivalité qu'il y a entre la Fiorentina et la Juventus. Là, Spalletti était très dur avec les journalistes à la fin du match. Il a dit que, en gros, c'était la faute de la pression qu'il met les journaux, qu'ils font de tous les matchs un match de vie ou de mort, qu'il simplifie des saisons entières sur des détails, sur des épisodes. Il a même dit, vous aimez construire des ratés, faire des gens des ratés. Et là, ils lui ont dit, mais non, ici, personne n'a parlé de ça, ils n'ont pas parlé des faillites et tout. Mais il était vraiment très, très dur. En gros, il a dit, il y a des choses pires que perdre contre la Fiorentina. Il a dit, au moins, on est en Europa League, on aurait pu aussi ne pas se qualifier pour l'Europa League. Il a fait un discours un peu, on l'a vu déjà nerveux, et aussi, il n'avait pas vraiment le contrôle. Et juste après Spalletti, il est passé Locatelli au microphone, et en fait, il s'est laissé pas, comment dire, il a fait passer un truc dans son discours que je pense il n'avait pas maîtrisé avant, il n'avait pas pensé à ce qu'il disait, parce qu'il a dit, avec Spalletti, on s'est amélioré techniquement, tactiquement, mais si cela ne mène pas à l'objectif, il faudra tirer certaines conclusions. Donc on aurait dit qu'il était en train de réfléchir à voix haute sur le fait que s'ils n'arrivent pas en quatrième place, ils n'arrivent pas en Champions League, chose que maintenant, ça dépend pas de eux, ça dépend de la Roma.
Ils sont à deux points de la Roma, là, justement, qui est cinquième de Serie A.
Oui, après la Roma aussi, elle a une histoire de auto-sabotage éternel. Il y a plusieurs championnats que la Roma elle a gâché à la dernière, au dernier match. Mais là, les derniers matchs, c'est contre Verona. Qui, oui, ils font le mieux qu'ils peuvent, mais bon, ils ont beaucoup moins de motivation. Et a priori, la Roma, elle devrait gagner et aller en Champions League. Et la Juventus allait faire l'Europa League, chose qui est catastrophique. Même si la saison a été mal commencée, avec Tudor, qu'il a fallu changer, mais Comolli, il était attendu à cette saison-là, parce qu'il a été choisi par
Damien Egan. Comolli, bien sûr.
Oui, ouais, voilà. Il a fait ben, c'est lui, maintenant, que il est sur la chaise, chaude.
Pas encore la chaise électrique. En tout cas, il est ciblé par les tifosi, Comolli, comme principal responsable.
Oui, parce que s'il y a quelqu'un qui doit payer, est-ce que c'est Spalletti qui doit payer, donc on recommence au début le projet technique et tactique. Est-ce que c'est Comolli qui l'a fait le marché ou le mercato, il a pris Openda, Zegrova, il a fait l'échange avec João Mario, qu'après il est parti à Bologne. Il a pas vraiment amélioré l'équipe. Et l'équipe, on l'a vu contre la Fiorentina, elle manque de charisme. Il n'y a pas des joueurs avec un gros caractère. On en parle souvent de cette question-là. Les joueurs avec gros caractère, ils coûtent cher parce qu'ils montrent leur valeur dans tous les matchs, même dans les matchs difficiles. La Fiorentina, elle a bien joué. C'était le pire match que la Juventus a joué dans les dernières semaines. Mais ce n'est pas excusable. Tu ne peux pas perdre 2-0 à domicile contre une équipe qu'elle a joué jusqu'il y a quelques semaines la descente en Serie B et qu'ils n'ont aucune motivation, qu'ils sont tranquilles et qu'elle a seule chose qu'ils veulent, c'est de gâcher la saison. Et tous les allaient laisser faire ça. Donc, c'est franchement pas excusable. Spalletti les a pas excusés, d'ailleurs. Mais en même temps, il y a toujours cette question-là. Est-ce qu'il faut forcément que quelqu'un paye cette déception? Ou est-ce qu'on peut se dire, bon, c'est des choses qui arrivent, on va pas tout gâcher, on va essayer de relancer sur l'année prochaine, on va améliorer l'équipe. Moi, je pense qu'il y a du bon dans cette Juventus. Moi, je venais parler bien.
Mais comment améliorer pour la saison prochaine, sachant que si tu veux pas Ligue des Champions, ça manque à gagner autour de 70 millions d'euros environ, voire 80, avec des joueurs qui vont vouloir partir. J'imagine qu'un Yildiz ne voudra pas rester dans une équipe qui joue simplement l'Europa League, sachant qu'il a beaucoup de courtisans. Pareil pour Kefren Thuram, possiblement, Daniele, Cambiasso, Contessao, Bremer également. Enfin, il y aura beaucoup de demandes de départ. Après, faudra les payer, ces joueurs. Mais...
Peut-être, peut-être pas. Ils disent qu'il vient de renouveler son contrat. Il gagne quand même 6 millions nets par an jusqu'à 2030. Il est assez jeune, il peut attendre encore. Je pense que si la Juventus reste l'équipe la plus riche d'Italie, de loin. Donc, je pense que s'ils veulent faire un mercato pour améliorer cette équipe, moi, je pense que c'est très facile. Il faut trois joueurs, pas plus. Il faut bien les choisir parce que oui, si on se loupe sur, ils ont pris deux attaquants, ils les ont loupés tous les deux, Jonathan David et Openda. Ils se sont loupés sur le latéral droit parce que Zegrova et Contessa aussi, ils sont pas vraiment, ils ont pas convaincu. Ils se sont loupés sur Coupe Miners. À la défense, s'il y a pas Bremer, c'est pas la même chose. Mais il y a, et ils se sont surtout loupés sur les gardiens. Parce que Di Gregorio, c'est peut-être la plus grosse déception de cette saison. Là, ça va pas être facile parce qu'il va falloir trouver un gardien au niveau Juventus, donc au niveau Buffon, niveau Chesney, et c'est pas facile. Mais je pense qu'avec trois joueurs, un gardien, un milieu et un numéro 10, et là, il va falloir dépenser, c'est une bonne équipe. Je pense qu'il y a du bon. Je suis pas sûr que Spalletti... Il a encore les morales pour progresser parce que c'est quelqu'un que il fait chauffer tellement l'ambiance. Je sais pas si de l'extérieur de l'Italie ça se voit tellement que c'est un personnage excentrique, particulier. Moi, je raconte toujours l'anecdote que quand à Rome, il y a un arbre qui est tombé devant le centre d'entraînement. Il y avait les jardiniers qui arrivaient avec la ciseau électrique, la scie électrique. Et Spalletti s'est chargé de couper l'arbre parce qu'il voulait montrer que c'était lui l'enfant à couper l'arbre. À la fin du match avec la Fiorentina, Gudmundsson, il allait le saluer et lui, en gros, il lui a mal parlé. Gudmundsson, il a posé la main sur son épaule et il a enlevé la main et il lui a dit, mais touche pas à un garçon de 25 ans. Il a laissé bagarrer avec lui. C'est quelqu'un avec un grand caractère. Dans un sens positif, dans un sens négatif aussi. La Juventus, c'est une équipe élégante, c'est une équipe qui très formelle et qui surtout elle programme les choses sur plusieurs saisons, mais il faut rester calme. Si on perd la calme, je pense qu'on perd aussi sa place à la Juventus. Donc c'est plutôt là que je pense il y a le problème.
En tout cas, tout va se jouer, même si la Juve n'a pas son destin entre ses pieds. Sur 90 minutes contre le Torino, en plus un derby, hein, dimanche à 15h dans un multiplex de Serie A qu'il faudrait absolument regarder.
Et le Torino, il est en forme. C'est en dans plus. Un bon moment.
Polo, c'est fou comme parfois les choses se passent presque comme prévu. Albert Riera a échoué, donc, à qualifier l'Eintracht Francfort en Coupe d'Europe. Bilan en 14 matchs, 4 victoires, 5 nuls, 5 défaites. Et surtout, tu l'as souvent raconté depuis 3 mois, des semaines et des semaines de tensions avec l'environnement local, la presse également. C'est terminé pour lui et c'est un gros coup dur pour l'Eintracht qui ne verra pas le continent la saison prochaine.
Oui, pourtant sa mission entre guillemets, elle était faisable. Hein. C'était pas quelque chose non plus d'extraordinaire de passer devant Fribourg. Et d'ailleurs, lorsqu'il récupère l'équipe, il est septième au classement, donc il était en Europa Conference League. Ce qui est très impressionnant, c'est qu'en fait, ce qui a mis un peu le feu aux poudres. Alors évidemment, au début, on regardait les compositions d'équipe qu'il faisait, qu'est-ce qu'il changeait. Donc il est c'est pas le coach le plus offensif d'Europe, mais au moins il y avait une structure dans l'équipe, etc. Rappelons que que Topmuller avait laissé une équipe qui encaissait 3 buts par match en moyenne. Hein, donc c'était le travail d'Albert Riera était intéressant à ce niveau-là. Mais en fait, et plus les matchs avançaient, plus tu te rendais compte que s'il avait son schéma de jeu, il ne mettait jamais les mêmes joueurs. Et tu comprenais pas. Il pouvait faire en conférence de presse l'éloge de Mario Götze. Et Mario Götze, il rentrait à chaque fois dans les 10 dernières minutes, tu vois. Donc tu comprends pas pourquoi Burkhardt, qui est le meilleur attaquant de Francfort, tu le retrouves sur le banc. Et puis c'est la presse allemande qui a mis un peu le feu aux poudres en faisant comprendre qu'il y avait beaucoup de soucis, un peu ce que tu m'avais raconté sur ce qui se passait lors de son passage en France, et avec certains joueurs, par exemple, qu'il ne parlait pas avec certains joueurs, il envoyait son assistant discuter avec, par exemple, que le japonais Rutsudoen, il ne le nommait pas par son prénom mais par son nom, par exemple, que ça ne se passait, qu'il trouvait que Burkhardt notamment était trop gras et tout ça. Et donc quand c'est sorti dans la presse, il a commencé à faire un show extraordinaire, c'est-à-dire qu'il était le cas, ce qui était déjà le cas avant et qui faisait rigoler un petit peu tout le monde. Mais comme les objectifs pouvaient être atteints, on laissait ça un petit peu. On dit ouais, c'est marrant parce que parfois, je l'avais dit à l'antenne, parfois on se plaint trop que les coachs sont dans un discours, une communication et tout ça. Donc lui, c'était assez marrant. Mais finalement, on s'est rendu compte que c'était plus grave que ça. Et je n'arrive toujours pas à comprendre en fait le personnage, sauf à comprendre un article qui était assez beau de Kicker, je sais plus si c'est aujourd'hui ou si c'était hier, qui a fait un peu le bilan des coach cette année et qui s'est rendu compte que tous les coachs qui ont un porte-voix à la place de la bouche cette saison ont échoué, évidemment Sandro Wagner à Augsbourg, évidemment Albert Riera du côté de Francfort, et tous ceux qui étaient un petit peu plus taiseux, je pense à Urs Fischer, Dieter Hecking, les vieux de la vieille, finalement Dieter Hecking il a amené Wolfsburg au barrage alors que c'était pas gagné, et Urs Fischer a fait une superbe campagne pour remonter le club qui était bon dernier de Bundesliga. Donc c'était assez intéressant, mais surtout le gars, je vais vous donner un exemple de ce qui s'est passé hier dans l'émission d'Opel Pass. On avait un journaliste qui était là. Il va dire oui, il va nous manquer quand même Albert Riera, parce que à part dans ses conférences de presse, il est assez exceptionnel, presque au même niveau que Donald Trump. Et donc tu vois où on en est, parce que tout le monde a éclaté de rire, évidemment, parce que Donald Trump c'est ridicule ses conférences de presse. Et en fait Albert Riera, il y a un côté messianique dans ce qu'il raconte. Exactement. C'est moi, c'est ceci.
Mais tu vois, c'est pas ça ce que disait notamment un de ses dirigeants à Ljubljana où il a entraîné en Slovénie. Il disait qu'il se prenait pour Dieu, en fait. C'était une bombe à retardement qui allumait des feux tout le temps en conférence de presse qu'il a fait en Ligue 1 avec Bordeaux notamment. C'est beaucoup de mal à le lire, cet homme-là. Je crois qu'il est un peu taré, tout simplement, avec un ego dingue.
Je crois qu'il a un ego dingue.
Disproportionnel par rapport à ce qu'il est.
Et je suis assez d'accord avec toi. Je pense que psychologiquement, il a peut-être quelques problèmes aussi. Maintenant, ça peut être une méthode de management. Mais en tout cas, ça n'a pas fonctionné à Francfort. 5 matchs sans victoire pour finir. Évidemment, on peut supposer que les joueurs de Francfort sont un petit peu responsables de ça. Et puis, évidemment, Francfort ne sera pas en Europe pour la première fois depuis 5 ans. Ça va être donc un sacré recul en arrière. Et on parle jusqu'à 30 transferts cet été du côté de Francfort, donc il va se passer beaucoup de choses en départ arrivé.
Reconstruire pour aller, pourquoi pas, retrouver un top 6.
On parle d'Adi Hütter d'ailleurs.
Adi Hütter, oui, exact, t'as raison de le dire.
Adi Hütter, et qui pourrait revenir, lui, on rigole pas trop.
Pas la même personnalité quand même, un peu plus sobre en conférence de presse, Adi Hütter.
Ouais.
Voilà pour Albert Riera, bon vent à lui, on verra s'il retrouve un point de chute ailleurs. Dans un instant, on va revenir sur l'émotion de Celtic, mais surtout là. Désillusion pour Heart of Middlesbrough. J'ai bien dit, Julien, c'est ça? C'est comme ça?
Très bien, parfait.
Bon. Mais d'abord, la minute espagnole. On envoie la musique, Timothée, s'il te plaît. D'accord.
Je sais pas où t'allais avec.
Non, d'accord. C'est bien, c'est bien. C'est bien. J'aime, c'est assez audacieux et toujours mieux du reggaeton, ouais, mon cher Edgar.
Écoute, c'est de toute façon c'est dur à critiquer comme choix parce que je l'ai choisi dans la playlist de Robert Lewandowski. Parce qu'il a une playlist sur Spotify où il a mis les chansons en fait qu'il écoute pour se mettre dans l'ambiance avant les matchs. Bon, vous savez, hein, le FC Barcelone est sponsorisé en partenariat avec Spotify, donc ils ont fait ce genre de choses. Et ce qu'on écoute, c'est une session studio de Peso Pluma chez le producteur Bizarrap. Et je l'ai choisi parce que le chanteur parle d'une personne qui lui manque terriblement depuis qu'elle est partie, que tout a changé. Et je pense qu'il y a beaucoup de Catalans qui vont ressentir ça dans quelques mois parce qu'ils ont dit au revoir à Robert Lewandowski. On verra qui va le remplacer, mais ça va pas être un job facile en tout cas. Il a eu le droit à un bel hommage au Camp Nou. Il a joué son dernier match à domicile hier face au Betis. Il a porté le brassard du capitaine. Il a eu une standing ovation. Il a eu une aide d'honneur. Il a été célébré par tout le monde. Il a pleuré. Il a donné un discours au centre de la pelouse. On parlera évidemment de l'hommage à Griezmann tout à l'heure. Mais lui, comparé à Griezmann, il est resté que 4 ans, entre guillemets, mais il va rester dans l'histoire du club d'une façon particulière parce qu'il est arrivé dans un moment bien particulier. Parce que quand il signe en 2022, il sort d'une saison à 50 buts en 46 matchs avec le Bayern Munich. Et là, il signe dans un Barça qui va mal, un Barça en dette, un Barça qui gagne plus, qui avait terminé à 13 points du Real la saison d'avant, qui est éliminé en phase de poule de Ligue des Champions. Pour vous donner une idée, c'était le Barça ses meilleurs buteurs, c'était Aubameyang et Memphis Depay. Et puis Lewandowski, à ce moment-là, était un symbole d'espoir en fait pour tous les supporters du Barça, un joueur, une signature qui signifiait que le Barça pouvait encore attirer ce genre de joueurs, les meilleurs joueurs du monde. Et finalement, il a fait 4 saisons, il a remporté 3 Ligas, 3 Supercoupes d'Espagne, une Coupe du Roi, 119 buts en 192 matchs, donc un ratio incroyable pour un joueur qui était là de ses 33 à 37 ans. Et comme il l'a dit lui-même dans son message d'adieu, le Barça est de retour à sa place, c'est-à-dire que le Barça est à nouveau un candidat à tous les titres et Lewandowski n'y est pas pour rien.
3 fois champion en 4 saisons sous les couleurs du FC Barcelone. On sait ce qu'il va faire ou pas ? Non ? Où il va partir ?
Pour l'instant, non.
Non, pour l'instant, non. Pourquoi pas la MLS ? J'avais lu ça également. Il y aura des offres aussi énormes en Arabie Saoudite pour le Polonais.
Il a encore un bon niveau.
37 ans, oui, bah, il peut rendre des services, hein, surtout en MLS, tu vois. Ou en Serie A, excusez-moi pour la lourdeur de la blague chaque lundi, mais pourquoi pas. Dans un instant, on parle donc de celle du Celtic et également du Séville FC qui a sauvé sa peau avec toi, Edgar. Justement, reste avec nous, les Drôles de Dames sont sur RMC, 20h47.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Julien Laurence, Edgar Grosleau, Polo Breitner et Daniel Emanoussia. Alors Julien, on a tous ou presque eu de la peine pour un club écossais ce week-end, donc Heart of Midlothian, qui rêvait d'un premier titre de champion depuis 1960, depuis 66 ans. Mon cher Julien, on a tous eu l'image incroyable et le dernier but notamment du Celtic.
Ouais, on a essayé de vous tenir informés hein, dans toute la saison, dans l'émission. On a fait des minutes, on a fait un peu plus que ça même sur ce championnat écossais qui cette saison, au-delà du duel habituel entre les Rangers et le Celtic, qui donc truste tous les titres depuis 1985 et le titre du Aberdeen d'Alex Ferguson à l'époque. Il n'était pas encore Sir Alex, il était que Alex Ferguson, un jeune Alex Ferguson même d'ailleurs. On vous a raconté un petit peu cette histoire incroyable de cette équipe de Hearts qui n'est pas du tout favorite, loin de là. Une équipe basée beaucoup sur la data, sur le recrutement, sur les stats. Tony Bloom, donc le propriétaire de Brighton, qui a pris des parts dans Hearts et qui a donc insufflé cette nouvelle dynamique un petit peu. Ils sont allés chercher des joueurs un peu partout dans toutes les secondes divisions des pays européens, tout ce que vous voulez. Et puis ils ont fait la course en tête quasiment toute la saison. La dernière fois que le Celtic était premier, c'était en septembre. Depuis, c'était Hearts qui était toujours premier. Et en Écosse, un petit peu comme en Belgique par exemple, même si ça va changer aussi là-bas, ils ont un format un petit peu différent des nôtres. C'est-à-dire que tu peux finir premier en fait de la saison régulière, si tu veux, du championnat. Contrairement à tous nos championnats à nous, si t'es premier, bah t'es champion. Là, c'est pas le cas. Ensuite, ils te font des playoffs entre les 6 premiers pour déterminer le champion. Tu gardes tes points de la phase régulière, si tu veux. Et puis après, donc, même en finissant premier, en dominant la phase régulière, si vous voulez, du championnat, ils ont quand même eu ensuite des playoffs à faire où ils ont affronté 2 fois le Celtic, les Rangers, Motherwell, etc. Ils ont perdu quelques points en route, mais aussi comme les Rangers, un peu moins le Celtic, puisque le Celtic venait de gagner 7 matchs d'affilée en championnat, et donc on est arrivé à samedi midi à Celtic Park. Pour la finale du championnat, il y avait un point d'écart, Hearts était premier, le Celtic était deuxième avec juste un point derrière, après avoir eu un penalty miraculeux, mais même pas juste miraculeux, complètement pas mérité en milieu de semaine pour aller gagner à l'extérieur, à Falkirk, je crois que c'était. Bref, il y a un point d'écart. Finalement, si Hearts ne perd pas à Glasgow, ils sont champions. Il faut que le Celtic gagne pour qu'il soit champion. Hearts ouvre le score, prend l'avantage dans une équipe. Pourtant, ils avaient laissé leur meilleur joueur Claudio Braga sur le banc. J'ai pas trop compris pourquoi Derek McInnes avait choisi de faire ça. Mais bref, ils ont ouvert le score, ils ont mené. Le Celtic est revenu à un partout. On jouait la 87e minute et Dazen Maeda, leur buteur japonais, à la limite du hors-jeu. Vraiment, ça se joue à rien du tout et la VAR doit intervenir en plus. Mais ce deuxième but qui offre le titre au Celtic, sincèrement, c'était, alors il y a le jeu de mots facile de heartbroken qui veut dire ton cœur est
cœur brisé.
Cœur brisé, voilà, exactement, avec hearts, ça c'est facile à faire, mais sincèrement, tu les voyais pleurer sur le terrain, les pauvres, en plus, à la fin du match, des supporters complètement idiots
exactement,
du ouais. Celtic, ouais, qui envahissent le terrain, qui les insultent, qui les bousculent, qui t'as pas besoin de faire ça en plus. Mais voilà, ça nous a donné un final incroyable de championnat d'Écosse qui a vraiment été incroyable cette saison. Sincèrement, je sais que c'est pas non plus le meilleur des championnats, mais c'était vraiment un suspense incroyable.
Ça veut dire aussi, Julien, que le Celtic ou même les Rangers ne sont plus inatteignables en réalité. C'est ça aussi l'information.
Oui, c'est ça. C'est leur échec. Enfin, finalement, le Celtic finit par gagner. Mais si ça avait été champion, ce qu'ils auraient dû être, ils ont mérité. C'est la meilleure équipe du championnat et de loin cette saison. C'est aussi parce qu'effectivement le Celtic et les Rangers avaient été loin de leur niveau habituel, mais c'est comme ça aussi que un petit peu quand tu vois un Lille gagner en France ou un Montpellier ou un Monaco, c'est un petit peu différent, mais tu vois l'idée un petit peu, il faut que le PSG soit un peu moins bon que d'habitude. Là le Celtic et les Rangers c'était un peu moins bon d'habitude, un peu comme le Bayern aussi si on veut en Allemagne. Mais ce qui est beau finalement côté Celtic, même si on peut regretter que ce soit pas les Hearts qui étaient champions parce qu'encore une fois ils le méritaient, c'est que Martin O'Neill, lui entraîneur légendaire du club, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, un entraîneur à l'ancienne, pour lui les XG, les data, les stats, c'est n'importe quoi, il ne veut même pas entendre parler, ça ne l'intéresse pas du tout, c'est la vieille école, c'est un dinosaure finalement. Qu'il arrive comme ça en deux temps finalement, parce qu'il est revenu une première fois comme intérim, il est revenu une deuxième fois comme intérim pour finir la saison, arrive comme ça au forceps à remporter le titre de champion, leur 56e je crois dans leur histoire, c'est juste incroyable quoi, bravo à lui.
Voilà, avec deux points d'avance sur Hearts of Midlothian. Edgar, le soulagement du CVFC, on en a parlé longuement cette saison également, finalement tout va bien, maintien en Liga.
Incroyable, ils ont gagné 3 matchs d'affilée. Alors là, ils ont perdu leur dernier match face au Real Madrid, mais avant ça, ils gagnent 3 matchs d'affilée, notamment en gagnant un match 3-2 sur la pelouse de Villarreal, 3e de Liga, qui est d'une régularité sans nom, alors qu'il n'a plus rien à jouer.
Oui, mais quand même. Plus rien,
alors
c'est
qu'il
ça.
Perdait, ouais. Non, mais il perdait 2-0 Séville, et je crois que même avant la 70e, il mène 3-2, quoi, un truc comme ça, ou avant la 75e, avec un but d'accord Adams. C'est vraiment, ils sont allés la chercher au mental, cette fin de saison, ce maintien. C'est, je pense, le maintien aussi des supporters et avant tout des supporters. Parce qu'on parle souvent d'union sacrée dans tous les clubs. Dès qu'il y a des difficultés, on parle d'union sacrée. Mais alors là, c'était vraiment l'union sacrée. T'as des supporters qui en peuvent plus depuis des années, qui sont énervés contre à peu près tout le monde, contre certains joueurs, contre surtout la direction. Et là, ils ont fait un spectacle sensationnel sur les dernières semaines pour soutenir leur équipe. Quand l'équipe en avait le plus besoin, l'ambiance au stade était vraiment impressionnante et je pense que ça a vraiment, vraiment porté cette équipe. Et puis, l'autre grand responsable de ce maintien-là, c'est le nouvel entraîneur qui a pris la suite d'Almeida, Luis García Plaza, qui, on va dire, a fait appel aux bases. Il est revenu au plus simple. Il a mis en place un 4-4-2 efficace. J'ai l'impression que les joueurs, on leur a demandé de faire des choses qu'ils maîtrisaient, des choses beaucoup plus simples, beaucoup moins risquées en défense, parfois plus directes. Moi, j'en avais parlé pendant la saison. J'adorais regarder le Séville d'Almeida et surtout sur la première partie de saison parce que c'était une équipe qui était souvent plaisante où il se passait beaucoup de choses parce qu'il marquait, il prenait beaucoup de buts. C'était, en tout cas, les matchs étaient sympas. Mais par contre, l'équipe était jamais en maîtrise. Et je pense que le nouveau coach, ce qu'il a réussi à faire, c'est de vraiment mettre les priorités là où il le fallait, d'exploiter les qualités de cette équipe en leur demandant vraiment des choses simples qui allaient faire gagner des matchs et il a réussi. Et il réussit à maintenir cette équipe. Et c'est une super nouvelle pour Séville, une super nouvelle pour le championnat d'Espagne, parce que sans faire de favoritisme, on a tous envie que des équipes et des clubs comme ça, comme Séville, soient en première division. Donc chapeau à eux
de se souvenir. Une bonne nouvelle pour Sergio Ramos également.
Et de la fin. Edgar, ouais, hein. Et une bonne nouvelle, c'est ce que j'allais dire, une bonne nouvelle pour Sergio Ramos qui avec ses amis de 5-11 Capital va racheter le club, hein. c'est pas en majorité, c'est pas son argent évidemment, mais c'est le visage de ce rachat à venir pour environ 400 millions d'euros, et évidemment une descente aurait changé beaucoup de choses, donc c'est une vraie bonne nouvelle pour eux, et je pense que ça va faire beaucoup de bien à tout le club, à tous les supporters de Séville, de dire au revoir à Del Nido Carrasco, le président, de dire au revoir à la direction actuelle et de passer à autre chose, parce que ils ont joué avec le feu vraiment ces dernières années, et il aurait pas fallu, je pense, une énième saison comme ça la saison prochaine, et j'espère en tout cas que les nouveaux repreneurs vont on va dire amener une nouvelle dynamique.
Alors, rendez-vous que je donne à nos Aftériens qui nous écoutent là, dimanche à 17h, multiplex, avec un match à la vie, à la mort, Edgar, pour le maintien, entre Gérone et Elche. Deux points d'écart entre ces deux équipes-là, 18e et 17e, deux points en faveur d'Elche. Le vainqueur de ce match se maintiendra en Liga, ça va être exceptionnel.
Ah ouais, pour le spectacle c'est génial. Pour le spectacle c'est génial, surtout que ce sont deux équipes.
Ça sera pas forcément beau, hein. Mais en tout cas voilà, c'est des matchs qu'on.
Ouais, mais
qu'on a envie
j'ai envie. Alors oui, peut-être avec la pression, mais quand même pour deux équipes qui jouent le maintien 17e, 18e, t'as quand même des vrais joueurs de ballon. T'as Elche, une vraie philosophie de jeu. À Gérone aussi théoriquement, même si ça n'a pas toujours eu du succès cette saison, et que souvent t'as surtout l'impression que c'est Unai en fait qui joue tout seul, ouais, et oui, les autres qui sont incapables de mettre un pied devant l'autre, c'est assez terrible. Bon, au moins il sera prêt pour la Coupe du Monde, hein, pour les supporters marocains qui nous écoutent, il est au niveau, ça c'est une certitude. Mais ouais, ça va être un super match, et Gérone, la saison dernière il jouait avec des champions, rendez-vous compte. Moi je suis arrivé en Espagne, Gérone était une équipe de Ligue des Champions, et moins de deux saisons après, Gérone peut potentiellement descendre, et en tout cas pour Mallorca c'est quasiment terminé, même en ayant Muriqi deuxième meilleur buteur du championnat. Mallorca là, Opta disait qu'ils avaient environ 5% de chance de se maintenir. Il va falloir beaucoup de faits qui vont en leur sens pour se maintenir lors de la dernière journée.
Oviedo est déjà relégué depuis un moment déjà. Voilà, Edgar, dans un instant, la deuxième heure avec les drôles de dames, on va parler de Xabi Alonso. Pourquoi ce choix à Chelsea? Xabi Alonso, Julien va nous répondre, bien sûr. On va parler aussi et revenir sur la séquence émotion collective d'un stade, le Metropolitano, hier, les adieux d'Antoine Griezmann. Reste avec nous, avec les quatre drôles de dames, RMC. On revient et on est là jusqu'à 22h, à tout de suite.
Génération After.
RMC. Salut Nico, salut à tous. D'un incroyable seul coup, le degré de bogositude de ce plateau
monte de massif.
Faudrait monter un peu les cheveux, mais la tectonique.
Ah bah, je suis vieux maintenant, j'ai 45 ans.
Il a l'air plus jeune.
Non, merci, tu peux revenir. Reviens tous les lundis soirs. Reviens tous les lundis soirs, Denis.
Mais je trouve qu'il vieillit très bien. Moi, j'ai 62 ans, là, je vous assure qu'il a encore un très beau physique, je trouve.
Très bon Barça, un Barça qui a encaissé des occasions.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec les quatre drôles de dames, Daniele, Manucia, Edgar Grolot, Paulo Breitner et Julien Laurence. Dans la deuxième heure, on va parler de Michael Olise, meilleur joueur de Bundesliga. Il a été élu ce week-end et il a récupéré ce titre-là. Êtes-vous d'accord avec ce choix? On en parlera avec Paulo, bien sûr. Et puis, on parlera également du miracle Ligue des Champions en marche pour la Roma, peut-être, avec Daniele. Ça lui fait chaudement plaisir, évidemment. Mais il y a un match qui vient de débuter, Julien, qui est énorme pour toi, pour la Première Ligue également, pour la conquête du titre de Première Ligue entre Arsenal et Burnley, avant le match City-Bournemouth demain. Le duel à distance commence ce soir, en tout cas cette journée, la 37e. Arsenal doit s'imposer pour écarter encore un peu plus les Citizens de Pep Guardiola, Julien.
Ouais, c'est ça, effectivement, gros match ce soir et gros match demain, bien sûr, parce que ce soir, autant tu peux donner Arsenal largement favori à domicile contre Burnley, autant demain, le déplacement de City à Bournemouth. L'équipe en forme de ce championnat, plus en forme que n'importe qui, invaincu sur les 16 dernières journées, qui se bat pour une place dans le top 5, voire même top 6. Une victoire, ça les ramènerait à un point derrière Liverpool, simplement, s'ils battaient City demain. En général, ils réussissent plutôt bien contre les gros. Et City, qui vient de jouer cette finale de Coupe d'Angleterre, il y a Il y a trois jours de ça maintenant. Donc c'est vrai que les, entre ce soir et demain, on pourrait avoir le titre de champion joué. Si c'est pas le cas, si Arsenal et City par exemple gagnent ce soir et demain, on aura donc un titre qui se jouera lors de la dernière journée dimanche après-midi.
Exactement, avec City qui recevra Aston Villa et Arsenal qui sera sur le terrain de Crystal Palace. Alors Julien, justement, on reste en Angleterre avec toi. Xabi Alonso aura donc la lourde tâche de remettre de l'ordre, lui, à Chelsea. Intronisé entraîneur des Blues, contrat de 4 ans. Choix surprenant, Julien. Quand tu as su que ça allait se faire, comment tu as réagi? Est-ce que tu t'es dit, mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas, Xabi Alonso, ou pas? Ou tu trouves le projet cohérent pour lui?
Un peu des deux, finalement. Sincèrement, un peu des deux. Alors, on savait qu'il était sur la shortlist, on savait qu'il avait eu des entretiens avec les propriétaires, les directeurs sportifs. On a déjà raconté l'histoire hein, de Chelsea, le seul club au monde à avoir 5 directeurs sportifs dans leur organisation, dans leur structure, dans la structure football, finalement. Donc, c'est un peu plus compliqué que dans n'importe quel autre club. C'est très différent dans n'importe quel autre club. Ça ne veut pas dire que c'est moins bon, mais c'est juste différent. On savait qu'il en faisait partie, avec d'autres aussi. Et très vite, il s'est détaché. Clairement, il avait été très convaincant dans ses interviews, il a été très convaincant dans ses présentations, dans ce qu'il a pu proposer au club, ce qu'il voulait faire, son identité, etc., etc. Mais de toute façon, c'est quelqu'un qui est brillant, donc finalement, il n'y a pas de surprise à ce qu'il soit convaincant dans ce qu'il a voulu présenter. Mais c'est vrai que lui a été très motivé par le projet, il a eu des garanties aussi, que peut-être Maresca n'avait pas eu avant, ou Rossignol, ou Tuchel, ou Pochettino, ou Potter, ou tous les autres qui sont passés avant lui depuis l'arrivée des Américains. Dans le sens où, par exemple, cette jeunesse poussée à l'extrême où on n'achète que des joueurs de quasiment, on va dire, pour résumer, mais de moins de 23 ans, à qui on donne des contrats de 7, 8, 9 ans pour amortiser et puis ensuite revendre, etc., etc. Lui, il a dit, moi, j'en veux bien des comme ça, il n'y a pas de souci, je prends certains, mais à un moment, il faut plus d'expérience, il faut des joueurs un peu plus âgés, il faut une structure un petit peu différente. Donc, il aurait obtenu des garanties, on verra bien de toute façon si c'est le cas ou pas, mais il aurait obtenu des garanties pour que justement ce soit un petit peu différent d'un Enzo Maresca, par exemple, qui, je continue de le penser, c'était l'erreur qu'ils ont fait de le renvoyer comme ils l'ont fait la veille au 31 décembre. Parce qu'il avait réussi à faire des plutôt bonnes choses, il avait mis en place quelque chose d'intéressant. Il y a après la finale de samedi, de la défaite en Coupe d'Angleterre, Guardiola, qui donc est le vainqueur à la télé anglaise, dit c'est un match compliqué, hein, c'est un match compliqué. Et là, c'est le trolling absolu de Guardiola où il dit cette équipe de Chelsea, elle est forte quand même. Hein. Enzo Maresca, qui est donc parti depuis 5 mois maintenant, c'est pas comme s'il était encore là hier et que c'était vraiment son équipe. Il dit Maresca a fait un travail incroyable. Comment il a construit cette équipe. Alors Guardiola et Maresca sont très copains, bien sûr. C'était son adjoint, ouais. Et c'est un peu son mentor, etc. Et je continue de le dire. Pour moi, Guardiola sera pas là la saison prochaine et c'est Maresca qui prendra la suite. Ça, c'est une autre histoire. Mais même Guardiola s'est permis de chambrer complètement Chelsea de cette façon-là, tu vois. Donc, Xabi Alonso va arriver avec, je l'espère pour lui, en tout cas, des garanties que même Maresca n'avait pas eu quand lui était arrivé de Leicester.
Mais tu penses à quelles garanties, par exemple, Julien? Par exemple.
Bah, c'était cette question-là, par exemple, d'avoir un effectif déjà plus étoffé, je pense, avec plus d'expérience que ce qu'on voit actuellement, où il aura un peu plus de contrôle, notamment sur le recrutement, parce qu'il faut pas oublier quand même que là, dans la structure actuelle, ces 5 directeurs sportifs-là, au club, c'est eux qui font la pluie et le beau temps, qui décident. Par exemple, comme Maresca, en janvier, donc dernier, janvier 2025, clairement, il y avait des problèmes de blessures. Il y avait Nico Jackson qui était blessé. C'était un peu le seul numéro 9 à l'époque. Il avait dit, moi, j'ai besoin d'un numéro 9. On est encore dans des compétitions. Il pouvait gagner la Conference League. Il était en championnat, dans la lutte pour la Ligue des Champions, etc. Et on lui avait dit au club, bah non, on donnera ce que nous, on a envie de te donner. Tu peux bien vouloir un 9, un gardien, un Paulo Breitner, un Daniel Musiala, un Edgar Grollo, un Nico Jamin. Nous, on donnera ce qu'on a envie de te donner. C'était pas l'entraîneur qui décidait. Alors que dans beaucoup de clubs, si un entraîneur dit, moi, j'ai besoin d'un 9, on va lui chercher. Si on dit, j'ai besoin d'un tel ou d'un tel, en général, on fait tout pour lui avoir. Pas à Chelsea. Je pense que pour Xabi Alonso, ce sera différent. Et aussi, n'oublie pas, Nico, lui était en position de force, finalement. Parce que Chelsea, dans la situation dans laquelle ils sont actuellement, ils pouvaient pas trop dicter un petit peu ce qu'ils voulaient à Xabi Alonso. C'est plus lui qui a dit, moi, je veux bien venir. C'est vraiment un joli coup pour Chelsea d'avoir attiré Xabi Alonso. Mais en revanche, Xabi Alonso, il a dit, mais c'est aussi mes conditions à moi, mes règles à moi.
Voilà, on va suivre ça. Beaucoup réagissent en disant pourquoi il n'a pas attendu Liverpool. Ça semblait naturel pour lui de retrouver ses anciens clubs. Pourquoi n'a-t-il pas patienté, justement? Mais est-ce qu'il a été contacté par Liverpool? C'est la question. Ouais, Edgar.
Non mais si, j'allais dire, moi je pense qu'un jour il entraînera Liverpool, mais si tu te grilles entre guillemets tes deux cartouches, deux tes cartouches anciens clubs, Real Madrid et Liverpool, derrière pour rebondir, c'est encore difficile. Et je pense que ça peut aussi lui faire du bien de commencer une nouvelle page, de pas retomber dans un truc où il va arriver dans un club où tout le monde va lui parler de son passage de joueur, du fait d'être un grand milieu de terrain, l'histoire du club, etc. Je pense que ça lui fait du bien aussi peut-être d'avoir un nouveau chapitre, quelque chose de nouveau. Et il aura tout le temps pour aller à Liverpool plus tard.
Tiens, t'as dit un truc intéressant aussi. Il a passé plusieurs entretiens. Il n'était pas le seul sur la liste, Julien, pour reprendre Chelsea. Faut-il être surpris qu'un entraîneur, certes, qui a encore des choses à prouver, mais qui a fait un doublé avec le Bayer Leverkusen, qui a entraîné le Real Madrid quelques mois seulement, certes, mais quand même, qui est référencé, qu'ils doivent passer des entretiens pour avoir le poste. Est-ce que ça vous choque, ça vous marque ou pas?
Qu'est-ce que t'en penses? Les entraîneurs pareil.
En première ligue, c'est le cas. En Ligue 1, c'est pas le cas en général.
Bah si, j'imagine que quand même
une série d'entretiens comme ça.
Ouais, où tu vas, tu dois, quand t'as plusieurs candidats, ils viennent tous. T'as des réunions avec les agents et tout ça. Ils présentent leur projet, c'est obligé.
D'accord. Bon, mais écoute. Si tu le dis, Julien, en tout cas en première ligue, en Ligue 1, régulièrement, il arrive très souvent quand même que des coachs référencés ont le poste directement sans passer par des entretiens. Mais bon, écoute. Parlons également de Michael Olise avec toi, mon cher Polo. Élu meilleur joueur de Bundesliga, comme l'avait été il y a 5 saisons, je crois, Christopher Nkunku d'ailleurs, c'était en 2019 précisément, ouais. C'est encore plus loin, pour Christopher Nkunku. Raconte-moi un petit peu si ça fait débat en Allemagne ou pas. Olise, meilleur joueur de Bundesliga. Et toi, ton avis personnel surtout?
Ça fait pas trop débat. Je suis un petit peu surpris d'ailleurs. Mais en fait, bon, très clairement, Michael Olise a réussi une saison extraordinaire. Il a clairement, Moussiala le disait, il a franchi un cap, et notamment sur le fait d'être quasiment constant sur toute la saison, ce qui n'était pas le cas l'année dernière. Mais après, j'ai envie de dire, j'ai presque l'impression qu'on a remercier Olise parce que c'est un artiste. Et moi, par exemple, je suis toujours en train de regarder l'efficacité parce que le collectif m'intéresse plus que l'individu au football. Et lorsque je vois ce qu'a fait Harry Kane sur l'ensemble de la saison, par exemple, lorsque l'équipe était en difficulté, que c'était Harry Kane qui tenait la baraque, la façon dont il défend, ce que ne fait pas beaucoup Michael Olise, etc. J'aurais préféré personnellement mettre l'anglais, mais l'anglais avait déjà été récompensé l'année dernière. Donc il est possible aussi qu'on donne le titre à Olise pour ça. Ce n'est pas un hold-up évidemment, parce qu'Olise a fait une superbe saison. Est-ce que maintenant c'est un joueur accompli qui méritait ce titre? Je sais pas, je mets un point d'interrogation. La question est pas savoir si c'est oui ou si c'est non, vu la saison qu'il fait, il est évidemment un candidat naturel pour ce titre-là. Moi, je vois ses progrès et je vois là encore où il devrait progresser. Donc, est-ce qu'il faut favoriser pour ce genre de trophée le joueur technique qu'il est, le nombre de passes décisives qu'il fait, même si évidemment c'est comptabilisé d'une façon un peu idiote. Est-ce qu'il faut comptabiliser le nombre de buts d'Harry Kane, qui encore une fois aurait sûrement pu atteindre le record de Lewandowski si lors des dernières journées Vincent Kompany n'avait pas décidé de laisser l'anglais sur le banc pour essayer de récupérer un peu de fraîcheur. Honnêtement, il n'y a pas fondamentalement de débat. Mais si tu veux, il y en a un qui est 2, il y en a un qui est 1, tu changes le 1 et tu mets le 2, je vois pas trop.
Il n'y aura pas de débat non plus, exactement, quoi. Tout à fait.
Donc voilà.
21 passes décisives, 15 buts pour Michael Olise. Ribéry avait déjà été élu, mais joueur de l'année, élu pas de la saison. Hein. C'est différent. Ouais. Ouais. C'est depuis 2019 qu'on a créé cette nouvelle distinction sur la saison. Voilà pour Michael Olise.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on se pose la question en ce moment si Diaz, Kane, Olise n'est pas le plus grand trio d'attaque qu'on ait vu en Bundesliga. Évidemment, on va attendre un petit peu. Déjà, il faudrait soulever la coupe grandes oreilles. Parce que ça, c'est un débat qui est important en ce moment. En Allemagne, mais tout ça est très bénéfique pour le club munichois. Mais j'ai envie de dire, moi, le grand gagnant de la saison, c'est Vincent Kompany, en fait.
Tout à fait. L'émotion au Metropolitano hier. Je ne sais pas si tout le monde a vu les images, au moins sur les réseaux ou en direct à la télé espagnole. La dernière, Antoine Griezmann, Edgar, la 500e aussi. D'ailleurs, elle a été décisive. Hein. Il est bon, Griezmann, parce qu'il fait. Il a fait dans les chiffres ronds pour sa dernière saison à Madrid. 500e match, 100e passe décisive également pour lui.
Ben non, mais le hasard fait tellement bien les choses. Tu te dis que c'était écrit. Après, il y a tellement d'autres fois où on s'est dit, ah, c'est écrit pour Griezmann, cette fois-là, il va la gagner. Il l'a pas gagné. Bon, fallait que ça tombe sur juste une statistique, on va dire, qui finalement n'aura pas trop d'importance, mais qui est belle pour arrondir quand même la chose. Et surtout, il fait une super passe décisive encore. Et en plus, en s'amenant le ballon du droit, en passant du droit, donc ça a montré qu'il a encore toute cette classe-là, lui, le gaucher. Et non, c'était une soirée parfaite. Pour lui, Nico.
Alors écoutez, justement, après le match, le long et vibrant hommage du Metropolitano, l'arrivée sur la pelouse d'Antoine Griezmann. Tout le monde est resté dans le stade, Edgar. Personne n'a quitté, mais évidemment, l'hommage était annoncé depuis plusieurs jours déjà. Il arrive sur Without You de U2. Je ne sais pas si c'est son choix à lui ou celui du club, mais il est pertinent, ce choix. J'ai rarement vu, Edgar, autant de supporters en pleurs au moment des adieux d'un joueur. Sincèrement, c'était un peu tous les plans de
coupe. Ouais, exactement. Je me suis fait la même réflexion. J'avais l'impression qu'il y avait plus de gens en pleurs. D'habitude, t'as les gens qui, tu sens qu'ils sont émus, ça se voit qu'ils sont touchés. Mais là, t'avais l'impression que c'était une grande réunion de famille où on disait au revoir à quelqu'un qui partait vivre à l'autre bout du monde. C'était vraiment beau à voir, avec des larmes dans tous les sens. Mais en même temps, il y avait ce côté triste, mais j'ai surtout senti que les sourires ont pris le dessus, et surtout sur le visage d'Antoine Griezmann qui est arrivé au stade en larmes. Donc je me suis dit, oula, il va avoir du mal à prononcer son discours, il va avoir du mal à jouer, etc. Et finalement, il a terminé avec ce sourire, ce grand sourire, et t'as senti vraiment toute la joie profondément qu'il a ressenti. Et d'ailleurs, il l'a dit, ouais, j'ai pas gagné la Liga, j'ai pas gagné des champions, mais votre amour vaut plus que ça. Et t'as senti une honnêteté dans tout ça, une vraie honnêteté, et c'est ça qui était beau. C'était vraiment on sentait que tout ce qui s'est passé était vraiment du fond du cœur, et que ce soit dans les déclarations de Griezmann, les déclarations de Coquet, son grand ami qui a fait un discours génial, tous ses coéquipiers qui jouaient pas, il y avait Llorente par exemple qui avait un t-shirt à son effigie, etc. C'était vraiment très très sympa.
10 saisons, 500 matchs, 212 buts, 100 passes décisives donc pour Antoine Griezmann, et sincère au point également de s'excuser d'une parenthèse barcelonaise, écoutez-le.
Me di cuenta del cariño que tenía aquí.
Je me rendais pas compte de toute l'affection que j'avais ici. J'étais très jeune.
Volví a recapacitar.
J'ai commis une erreur, j'y ai réfléchi.
Para volver aquí, disfrutar de nuevo.
Et on a tout fait pour revenir ici et en profiter de nouveau.
Voilà, Antoine Griezmann. Alors, ce qui est un peu dur dans son histoire avec l'Atlético, c'est que c'est quand il part du club que les Colchoneros sont champions d'Espagne, Edgar.
Eh oui. Oui, exactement. Ça fait mal. Ça fait très mal. Mais j'ai presque envie de dire que ça a presque été finalement une sanction pour le fait d'être parti, quoi. Pour lui, mais il est pas arrivé au bon moment au Barça. Ça s'est pas passé comme il aurait voulu. Alors oui, maintenant, on embellit aussi peut-être un petit peu l'histoire de son retour, parce que on raconte ça aussi comme l'histoire d'un gars qui juste s'est rendu compte qu'il s'était trompé et a voulu revenir. Il y a aussi une part d'échec dans son histoire au Barça. Je pense que si ça s'était mieux passé au Barça, il serait pas revenu à l'Atlético, hein. C'est pas pour lui enlever le courage qu'il a pu avoir justement de revenir à l'Atlético alors qu'il savait qu'il allait être très très mal accueilli. Ça a été très courageux de sa part, et je pense d'ailleurs que sa plus grande réussite à l'Atlético, ça a été de reconquérir les cœurs des supporters après ce moment-là, parce que il y avait, je pense, même une certaine haine chez certains supporters qui lui en voulaient vraiment profondément, et il a réussi à se faire aimer de nouveau par les efforts dans le vestiaire aussi. Il s'est fait chambrer, même Coquet lui a dit l'a dit dans son discours, il disait on était énervé contre lui, mais au bout de deux mois en fait on l'avait pardonné, parce que c'est Grisou, et c'est surtout par sa personnalité aussi qu'il a réussi à être une légende de l'Atlético et à être aimé de nouveau et être accepté de nouveau, et il représente aussi, j'en parlais l'autre fois avec des supporters de l'Atlético pendant qu'il jouait la demi-finale face à Arsenal ces jours-là, et il disait c'est aussi ça l'esprit de l'Atlético, c'est de pardonner les gens quand ils font des erreurs, c'est aussi de perdre parfois des moments difficiles. L'Atlético, c'est son histoire, c'est aussi ça, c'est aussi des défaites douloureuses. Et Griezmann, pour toutes ces raisons, il représente bien cet Atlético, mais surtout parce que c'est un joueur exceptionnel.
Exceptionnel. Vous avez en tête, les gars, un joueur dans vos championnats qui pourrait, en cas de départ, en cas d'adieu, là, dans les prochaines saisons, vivre un tel hommage? Non?
En Italie, on a eu Totti et De Rossi dans
les... Oui, mais ça, c'est des cas à part. Effectivement, c'est terminé. Mais aujourd'hui, est-ce que tu as encore des joueurs qui sont sur depuis 10 saisons dans leur club respectif et qui pourraient déclencher une telle vague d'émotion? En Allemagne, Polo, t'en as, toi, qui viennent ou pas?
Il pourrait. Alors, je sais pas, un mec comme Joshua Kimmich. Alors, il y a le cas de Manuel Neuer, mais n'oublie pas qui vient de Gelsenkirchen et non pas donc de Schalke et non pas du Bayern Munich.
On a vu Thomas Müller la saison dernière aussi.
Thomas Müller, évidemment, si on voit récemment, les anciens grands champions, mais c'est pareil. On a quand même eu Marco Reus au Borussia Dortmund, quand même, qui est assez impressionnant. Je pense qu'Harry Kane, lorsqu'il partira, ça va être assez assez important, parce qu'il est en train de laisser une trace. Et puis là, ça n'a l'air de rien. Il est resté, on en a beaucoup parlé cette saison, il est resté une seule saison à Hambourg. Et l'amour des supporters pour un certain Vuskovic est, je cite la presse allemande, comparable à ce qu'ils avaient vécu dans les années 80 lorsqu'il y avait le Grand Hambourg qui gagne la Coupe d'Europe des clubs champions. Il y a un truc qui se passe autour de ce joueur qui est débonnaire. Moi, je sais pas comment Julien le connaît bien, mais je pense que vraiment ça va être un jour l'année prochaine, si Tottenham se sauve, et ce qui est possible, va vraiment falloir regarder comment il est, parce qu'il a une façon de rendre le public heureux. Simple, il a que 19 ans, faut
19
pas
ans,
le dire,
ouais.
qui fait que j'ai rarement vu ça, moi, un gamin comme ça qui est juste prêté et qui met tout le monde d'accord, et tout le temps la banane, etc., alors qu'il est quand même défenseur central, et donc t'es là dans les duels systématiquement, il se marre même avec les attaquants sur le terrain, et la façon dont Vuskovic a été fêté après la 33e journée, évidemment, parce que là, Hambourg était à l'extérieur, est assez impressionnant, et je te le dis, je répète ce qu'il se disait en Allemagne, c'est qu'on n'a pas vu ça comme amour d'un joueur depuis le 80.
C'est intéressant, comme quoi c'est pas forcément la longévité qui fait l'attachement à un joueur, et l'affection en tout cas à un joueur, même dans ce cas qui reste une seule saison. Je vous posais la question en voyant les images de Griezmann, messieurs, quels autres joueurs français sont devenus des légendes dans leur club à l'étranger? Évidemment, moi, il me vient Thierry Henry à Arsenal, Platini à la Juve, bien sûr,
Cantona aussi à Manchester United,
Cantona, Ribéry, légende de Bayern, bien sûr.
Ouais, alors au début, ça a été compliqué, n'oublions pas.
Ginola, Newcastle, ok. Ouais, Ribéry, ouais, compliqué.
Il a joué longtemps quand même, il a pas gagné. C'est Zidane, ça le problème en fait.
Mais est-ce que gagner, c'est fondamental? Griezmann n'a pas vraiment gagné. Il a gagné une Europa League par exemple.
Oui, mais
tu vois.
Si t'as la longévité, ça va. Si t'as ni la longévité, ni le palmarès, c'est plus compliqué. T'as fait rêver les gens. Ginola, il a fait rêver.
Au Real, au Barça, c'est pas pareil que l'Atlético, parce que t'as des attentes aussi qui sont différentes.
Non, mais il y a aussi des pays qui sont plus chaleureux entre guillemets que d'autres. Et l'Italie, par exemple, si on reprend les grands duels entre l'Inter et le Milan AC, donc ce qu'on appelait les Néerlandais, Ruud Gullit, etc., contre les Allemands de l'Inter, c'était un truc qui était complètement fou. Un Hans-Peter Briegel, par exemple, à Vérone, si je me rappelle bien, c'était l'année 1985, donc était décrit comme un ancien décathlonien par la presse française, était adulé en Italie. Rudi Völler à la Roma était adulé. C'est des trucs qui sont complètement fous, et les mecs, ils repartent tous en vacances là-bas. Ils ne payent rien, parce que dès qu'ils vont au resto, ils sont reconnus et on leur paye tout. Je suis pas sûr qu'en Allemagne ça se passe systématiquement comme ça. On aurait peut-être plutôt tendance à alourdir la facture, parce qu'on sait qu'ils ont du pognon. Donc c'est je trouve ça assez intéressant, ce côté j'aime des joueurs d'origine étrangère d'une façon assez assez impressionnante. Je suis pas sûr, par exemple, qu'en Espagne on ait le même amour entre guillemets que ce qu'on a pu voir en Italie, si je parle de l'Europe, possible.
Benzema est une légende au Real, on peut le considérer comme s'il qualifie ainsi, Edgar.
Oui, mais c'est différent. Au Real, il y a tellement
de légendes, c'est ça, oui, bien sûr.
C'est différent. Par exemple, ça va être intéressant à suivre, parce que ça va être la dernière de Dani Carvajal ce week-end face à l'Athletic Club de Bilbao. Quel hommage il va avoir? Est-ce que ça va être aussi grandiose? Bon, alors oui, c'est pas peut-être pas le même niveau qu'Antoine Griezmann, mais c'est quelqu'un qui a tout gagné, formé au club, etc. Est-ce qu'il va avoir un superbe hommage au Bernabéu? Ça va être intéressant à suivre. Et tant qu'on est sur les hommages en Espagne, il y en a eu deux autres ce week-end. Je les mentionne quand même. Ernesto Valverde à Athletic Club, lui qui est entraîneur, et Oscar Trejo au Rayo Vallecano, qui est arrivé en 2017 alors que le club était en deuxième division. Il a eu vraiment un hommage magnifique avec un tifo.
C'est
avec
l'ancien Toulousain.
Des t-shirts, qui portait des t-shirts à son nom, et il va quitter le Rayo à 38 ans.
Bon, là, j'ai lancé un petit jeu, des joueurs français devenus légendes à l'étranger. On me dit aussi évidemment André-Pierre Gignac au Mexique. On me dit aussi Johan Mikou au Werder, je sais pas. C'est pas à la hauteur de Griezmann. Quand même, en quatre saisons au Werder.
Ouais, mais il faut comprendre la culture. T'es au Werder, t'es le nord de l'Europe. Ouais. T'es pas là pour faire la fête systématiquement. C'est pas tout à fait la culture. C'est plutôt des gens assez taiseux, etc. Mikou, il avait dans la ville des pancartes. Vous savez, les plus grandes publicités qui sont complètement moches,
ouais,
qu'on voit sur les autoroutes et tout ça. Il y avait que de ça. Johan Mikou à Brême, c'est un truc de fou, quoi.
Zidane à Madrid et à Turin aussi.
Mais oui ou pas? Franchement, je suis pas. Moi, j'ai un doute
Turin,
là-dessus. Quand même.
À Turin, je suis pas sûr. Ah,
les gens de Turin.
Je
suis pas sûr non plus, les gars. Je vais avoir des problèmes. J'en ai rien à cirer, mais. Et au Real, il est pas noyé parce qu'il apporte sa pierre à l'édifice.
Non.
Mais au milieu de Galactique aussi, il en a été un. Tu vois ce que je veux dire, quoi. Une légende, elle est un peu au-dessus.
Au Real, c'est quand même une légende. Au Real, par exemple, par rapport à Benzema, alors Benzema, c'est
plus que Benzema,
une légende, mais c'est oui. En termes d'idole, oui. Et en plus, il est revenu au club et il gagne trois Ligues des Champions consécutives.
Oui, mais alors l'attachement est troublé aussi par les trois victoires en tant que coach aussi. Tu vois, mais je parle du joueur.
Il y a les deux. Mais Zidane aussi, c'est quelqu'un qui a laissé personne indifférent. Donc c'est aussi particulier parce que c'est un joueur tellement hors norme, tellement spécial que c'est encore autre chose.
Alors la plus grande légende à l'étranger, on nous dit, c'est Eric Cantona, Manchester United. Voilà.
Ouais, ça c'est sûr. Encore aujourd'hui, hein. Il est parti il y a 30 ans et aujourd'hui encore on chante sa chanson, il y a encore des drapeaux à son effigie, il y a des drapeaux français pour lui partout, c'est de la folie. Hein. Mais parce que c'est le premier aussi, hors britannique, dans ce club-là, je pense, qui a vraiment marqué les esprits.
Ce que dit Julien est super important, c'est qu'en fait, la filière française en Bundesliga a toujours existé, il y a Didier Six, etc., qui joue à Stuttgart, mais en fait, c'est récent. Les années 90, le football français qui part jouer en Italie, je pense qu'il y a quelqu'un comme Marcel Desailly, quand on pense au grand Milan AC, ça doit être un truc monstrueux pour les gens, pour les supporters du Milan qui ont vécu cette période-là, quoi. Le but qu'il met contre Barcelone en finale, c'est un truc de fou en 94, c'est un truc de fou. Là, il y a des choses comme ça, mais faut voir aussi les filières, si c'était des filières habituelles ou si elles sont relativement récentes, donc c'est un petit peu différent pour moi. Mais la façon de fêter les joueurs est différente.
On le dit aussi, Julien Faubert, Real Madrid, légende du club, mon cher Edgar. Tu l'as pas forcément connu. Voilà, pour les légendes du joueur français à l'étranger. On nous dit Lautaro, quand il partira également pour rejoindre le départ de Griezmann de l'Inter, peut aussi avoir une vague d'émotion.
S'il reste tout le temps.
Et Salah aussi. Hein.
Et Mo Salah aussi, ça.
Dimanche prochain, je sais pas dans quel contexte, sous quelle forme, mais Salah, dimanche prochain, ça devrait être super. Enfin, ça aurait dû être super émouvant. Je sais pas comment ce sera maintenant, mais ouais.
Bon. Voilà les gars, on aurait pu tenir encore une demi-heure sur les légendes françaises, des clubs étrangers bien sûr. On nous dit aussi Cantona à Leeds restera une légende quand même, avec son titre de champion. Voilà. Pour les joueurs français de l'étranger. Alors dans un instant, on va parler de la Roma avec toi, Daniele, de Fribourg qui s'apprête à disputer le match le plus important de son histoire, une finale de Ligue Europa. Tout de suite sur RMC avec les Drôles de Dames.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec les quatre drôles de dames, Julien, Edgar, Polo et Daniele. Toujours 0-0 entre Arsenal et Burnley après quasiment 30 minutes de jeu. Ça tient pour l'instant, Julien, tu regardes le match en même temps, j'imagine.
Grosse
position des Gunners, côté. Quand même. Ouais.
Ouais, mais pas beaucoup d'occasions non plus, à part la frappe sur le poteau de Trossard tout à l'heure. Et une équipe de Burnley qui défend avec beaucoup de joueurs derrière le ballon. Et un centre de Saka à l'instant là qui passe devant la ligne. Mais ils s'en sortent, les joueurs de Burnley, et toujours 0-0. Et plus le score restera comme ça, et plus ce sera tendu dans l'Emirates, tu sens déjà un petit peu la tension.
Et si un but, Julien, pendant dans le Dame, tu me commentes le but en version originale, en anglais.
Allez,
okay,
ça marche. En anglais, tu veux que je fasse?
En anglais, bien sûr.
D'accord. Mais il y a un petit décalage, hein, peut-être, je pense. Mais
c'est
bon.
pas grave.
Tu fais.
Daniele, ton cœur a battu fort ce week-end. Ta Roma a vécu un dimanche de rêve, et toi aussi. Victoire dans le derby face à la Lazio, et un pas vers la Ligue des Champions. C'est pas entériné, t'en parlais tout à l'heure. Mais le retour en C1, 7 ans après, est tout proche.
Bah oui, la Roma est une équipe qui a plusieurs fois dépassé les attentes. Gasperini même l'a dit, après avoir fêté avec les supporters, il a dit on va au-delà des attentes. Ces groupes de joueurs, ils vont au-delà des attentes. Vous vous souvenez peut-être, après 12 journées, la Roma était première en classement. On ne savait pas comment, on ne savait pas pourquoi. Elle avait une bonne défense, mais on se disait, mais comment ça se fait? Là, on regarde le classement, on se dit, comment ça se fait que la Roma, elle a 70 points. On regarde le match contre la Lazio. Au bout d'une demi-heure, on se dit, comment il peut y avoir 20 points d'écart entre cette Roma-là et la Lazio qui menait le match, qui avait plus d'occasions, elle était meilleure sur les terrains, mais tout a changé avec deux corners, avec deux buts de la tête de Mancini, qui c'est les leaders du vestiaire, mais aussi les leaders de ce que certains supporters appellent la bande de la sixième place. On en a parlé, la Roma, ça fait depuis 2018 qu'elle rentre pas en Champions League, qui enchaîne la sixième et la septième place. Deux fois seulement elle est arrivée cinquième. Et c'est surtout pour ces groupes de joueurs qui sont là depuis plus longtemps. Mancini, Cristante, qui c'est un des joueurs avec le plus de matchs avec les maillots de la Roma dans l'histoire de la Roma. Pellegrini ou même Dybala. Tous des joueurs qu'ils avaient les contrats en train d'expirer cet été ou l'été prochain. Qui ont pensé, bon, la Roma elle va se débarrasser d'eux parce qu'il faut tout changer. Gasperini va tout changer. Mais il y a quelques semaines, Gasperini a dit non, pas du tout. Moi, je veux pas me débarrasser de ces joueurs-là sans savoir qui va arriver après eux. Sur ces blocs de joueurs-là, je veux bâtir l'équipe du futur, même en disant peut-être il va y avoir des joueurs meilleurs que ça. Mais ça, on va les garder. On va les garder sur les bancs. Ils vont rentrer. On va pas les renvoyer si on n'a pas de mieux, en gros. Et il a été réveillé parce que Mancini il a fait gagner ce derby incroyable. En plus, il faut peut-être pour le public pas italien ou pas de Rome, Mancini il est pas aimé. Il est pas aimé par les supporters de la Lazio et c'est un euphémisme. C'est même les pires joueurs qui pouvaient marquer un doublé dans un derby. C'est imaginez votre ennemi juré parce que lui après les derbies que la Roma il gagne, il prend les drapeaux où il y a les couleurs de la Roma. Et une petite souris avec les couleurs de la Lazio au milieu. Donc, imaginez un joueur qui fait ce genre de choses-là. Ils avaient vraiment l'aile et c'est lui qui a marqué les deux buts. Donc, c'était un cauchemar pour la Lazio. Un rêve pour la Roma aussi parce que il faut le dire aussi, il y avait les matchs en contemporanéité de la Roma, la Juventus, Milan et Naples. C'est-à-dire les matchs des équipes qui jouaient la place pour la Champions League. Donc, en sachant que la Juventus, elle perdait contre la Fiorentina, la Roma, en gagnant ces derbys-là, elle allait en Champions League. C'était inattendu même au début de la saison. Parce que Friedkin, la famille Friedkin, dans Friedkin, quand ils ont cherché Gasperini, ils pensaient pas aller en Champions League tout de suite. Ils pensaient, bon, ça va être une année de transition. Il y a eu les moments de tension entre Gasperini et Ranieri. Ils ont décidé de garder Gasperini pour garder la continuité, pour dire, ah bon, on va faire ça dans 3 ans. On va pas prendre des décisions tout de suite. Mais là, ils vont être réveillés tout de suite. Je pense que même c'est un résultat inattendu, mais aussi qui arrive un peu trop tôt peut-être, parce que la Roma, si on regarde l'équipe, elle est loin d'avoir une équipe des Champions League. Donc cet été, il va falloir bosser.
Mais tu vas la construire. Et puis avec cette nouvelle formule de la Ligue des Champions, tu peux te faire quand même une place parmi les 24 qualifiés pour la phase suivante. Comment on vit ça à Rome, justement, autour de Gasperini? On a raconté notamment un podcast, les tensions Gasperini-Ranieri, Gasperini qui a été conforté par Friedkin. Comment on vit cette fin de saison, justement, et un éventuel retour en Ligue des Champions?
Ben là c'est très bien, ils sont tous très 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 contents. En plus c'est pas pour exagérer la portée du derby, mais à Rome c'est le deuxième match le plus important de la saison. N'importe qui arrive, s'il y a une finale, ok, la finale est la plus importante, mais s'il y a pas de finale, c'est les matchs les plus importants. Et là c'était un match où il y avait un jeu, quelque chose d'important, et que la Roma elle arrivait à le gagner. Gasperini, au début, il n'était pas trop aimé parce que c'était quelqu'un d'honneur. Quand il entraînait l'Atalanta, il n'était pas gentil avec la Roma. Il ne parlait pas bien de la Roma. Il y avait une grosse rivalité entre la Roma et l'Atalanta. Mais là, je pense qu'il a franchement conquéré l'équipe. On dit toujours qu'à Rome, pour vraiment entraîner bien la Roma, il faut un entraîneur étranger ou du Nord, qu'en gros, c'est comment dire étranger. Mmh. On a eu Lidl.
Messieurs. Et on a peut-être un pénalty pour Arsenal. La VAR, après une faute non sifflée par l'arbitre sur Bukayo Saka.
Ah non, si. Apparemment pas. Alors, t'es en retard sur nous, toi. Peut-être, hein. Ce qui est fou de la France, c'est en avance sur toi, sur un match anglais. Là, l'arbitre a dit pas de penalty, le jeu a repris.
Exactement.
Ah, dommage.
Je viens de l'avoir sur mon écran.
On a failli avoir un commentaire en VO, Julien Laurent, sur penalty. Ouais, Arteta n'y croit pas. C'est un moment important pour cette minute de jeu. 0-0 entre Arsenal et Burnley. Daniel, je te rends la parole pour conclure sur la Roma.
Non, je disais juste que voilà, les entraîneurs qui marchent à Rome, c'est des étrangers. Mourinho, Lidl, Capello, on va dire, c'est un étranger, quelqu'un qui vient pas de Rome. Et là, Gasperini, il a cet air un peu de Zeman aussi. C'est, on dirait un étranger quand on le regarde. Il a un peu toujours mal à l'aise avec les supporters et tout. Mais je pense que c'est aussi ça que ça marche, qu'il a changé un peu la culture et cette espèce de cynisme qu'à Rome on a, mais pas pour gagner. Ça fait du bien, quoi.
Et pour réussir peut-être enfin dans un grand club, hein, Gasperini qui avait échoué lorsqu'il avait quitté, notamment quand il avait rejoint des clubs plus ambitieux. Alors, Polo, parlons de Fribourg, qui va jouer mercredi le plus grand match de son histoire, tu nous l'as dit. Finale contre Aston Villa, le club du Baden-Württemberg, pardon. Est-il prêt, mon cher Polo? Il l'a gagné ce week-end lors de sa dernière journée et a scellé une 7e place en Bundesliga. Maintenant, la montagne va s'élever un peu plus, c'est mercredi soir.
Mais c'est en fait ce qui est très, bon. Déjà, ce qui est toujours impressionnant, il y a deux choses à dire sur Fribourg. Un, les trains à Fribourg arrivent toujours à l'heure, c'est-à-dire que il se passe jamais rien de spécial. Ils font juste le taf. Et la deuxième chose qui me semble importante, c'est n'analyser jamais le club dit Fribourg à l'aune de la saison en cours. Il faut regarder l'évolution sur les 10 dernières années, sur les 20 dernières années, sur les 30 dernières années, pour voir comment ce club monte petit à petit vers les sommets, au minimum du football allemand. Sauf que
le but Arsenal, il est là, le but Arsenal.
En anglais, s'il te plaît.
Just scored for Arsenal, maybe the goal that will give them the title after 22 years of waiting. And guess what? 7 piece FC, olé olé! 7 piece FC, olé olé! 7 piece FC, 7 piece FC, 7 piece FC, olé olé!
Sur corner, encore une fois, bien sûr. J'ai pas toute la traduction, moi j'ai compris l'essentiel. Bravo Julien, excellent. Mon Dieu. Voilà, commentaire en VO en direct de Julien Laurence. But d'Arsenal 1-0 face à Burnley à la 38e. Peut-être le but du titre, même s'il restera une journée derrière. En tout cas, virtuellement, Arsenal a 5 points d'avance sur City qui jouera demain contre Bournemouth. Ça nous en fait, hein, c'est un deuxième but, Julien, on s'est régalé. Même Polo est pas mécontent d'avoir été coupé pour ce commentaire. Mon cher Polo Show.
De Kai Havertz aussi sur un corner de Saka. Et je pense que Saka, dès que le ballon quitte son pied, il sait que ça va être dans le but.
Ça fait quoi? Ça fait 17-18 buts sur le corner cette saison, au coup de pied arrêté.
Ça va être le 18e ou le 19e, moi.
Quelle folie. Incroyable. En tout cas, le stade de l'Emirès qui explose littéralement 1-0, c'était poussif. Mais voilà, Polo, je te rends la parole sur la Fribourg, hein, qui affrontera un club anglais, j'ai dit, mercredi soir.
Évidemment, Aston Villa. Et donc, en fait, ce qui est toujours impressionnant avec Fribourg, c'est le fait d'être qualifié pour la C4 l'année prochaine, ils n'ont aucune pression. Et ce qui est extraordinaire, depuis quelques années, on posait la question, il faut se rendre compte de ce qu'est Fribourg. Il y a encore 15 ans, c'est un club qui redescendait en seconde division. Sa première année en Bundesliga, c'est 1993. Donc c'est un club nouveau, entre guillemets, dans le football allemand. Et c'est un club qui devait se battre et qui finalement est allé chercher pour la première fois une Coupe d'Europe, enfin une qualification européenne, etc. Et finalement, on se rend compte qu'ils sont toujours là et de plus en plus présents. Et évidemment, en face, c'est Aston Villa. Donc Fribourg, personne en Allemagne pense que Fribourg peut aller chercher la Coupe du UEFA à Istanbul. Mais ce qui est impressionnant, c'est que on parle beaucoup avec Jörn Zayer, qui est le manager de l'équipe. On lui pose toujours, mais c'est quoi votre plafond de verre? Et lui, il l'explique très bien. On l'a vu en 2022, lorsqu'ils étaient pour la première fois de leur histoire en 8e de Ligue Europa. Ben ça s'appelait Aston Villa. L'année d'après, et ben c'était la Juve. Et puis on a oublié quelque chose qui était très très important, c'est qu'en fait en 2022, en 2023 et en 2025, ben déjà Fribourg pouvait se qualifier pour la Ligue des Champions lors de la dernière journée de championnat en 2022-2023. C'est pas eux qui pouvaient gagner leur match, mais c'était les autres qui décidaient. Et il y a eu une contre-performance l'année dernière où ils jouaient justement Francfort pour une finale en Ligue des Champions, et Francfort est allé l'emporter à Fribourg. Et là, en fait, à nouveau, tu as la possibilité de Fribourg, en cas de victoire, d'aller en Ligue des Champions, qui est un petit peu le plafond de verre. Et c'est ça qui est extraordinaire avec Fribourg, c'est que chaque année, boum, ils essayent. Il y avait Aston Villa, c'était trop fort. Il y avait la Juve, c'était trop fort aussi, deux fois de suite en huitième de finale d'Europa League. Là, regardez le parcours de Fribourg. Ils ont pas battu des monstres de guerre, hein, les
équipes de leur niveau, de leur chapeau à peu près.
C'est ça. C'est qu'en fait, ils ont la seule défaite qu'ils ont tenue, c'était contre Lille, et tout le monde s'en fichait. Ils étaient déjà dans le top 8. Mais ils ont battu des équipes qui étaient certes intéressantes, des très belles équipes, je pense au Celta, etc. Ou Braga en demi-finale, c'était loin d'être gagné d'ailleurs cette demi-finale. Mais ils ont pas
si tu veux, réussi à battre des monstres. Et Aston Villa, au-delà de l'histoire que d'Aston Villa avec le football allemand, évidemment, c'est la Coupe d'Europe des clubs champions en 1982 contre le Bayern, c'est un petit peu Emery, c'est les titres qu'il a gagnés, c'est une équipe qui est supérieure à Fribourg à tous les postes, même Manzambi, je pense, n'est pas le meilleur au milieu de terrain par rapport au milieu de terrain d'Aston Villa, mais ça fait partie des belles histoires du football. Et comme ils seront en Europe de toute façon l'année prochaine, bah on y va tranquille, quoi. C'est ce que tu veux qui. Et ça, c'est Fribourg.
Le défi est énorme. Aston Villa, on l'a dit tout à l'heure, qui a déjà assuré sa quatrième place, sa place en Ligue des Champions saison prochaine, avec évidemment l'histoire Unai Emery qu'on a raconté mille fois, qui a déjà gagné 4 Europa League, Julien, 3 avec Séville, 1 avec Villarreal. C'était d'ailleurs contre Arsenal, si je ne me trompe pas, en finale de Ligue Europa pour Unai Emery. À quel point c'est important pour lui ce rendez-vous-là? Parce que sincèrement, s'il fait Ligue Europa plus quatrième place de Première Ligue, franchement, saison encore somptueuse pour le coach espagnol, quoi.
Ouais, alors que pourtant tout n'a pas été non plus aussi facile que ça.
Il y a un gros trou d'air au milieu de saison aussi.
Exactement, ouais. C'est compliqué. Ils ont des restrictions financières. On l'a déjà expliqué aussi au niveau de leur budget. Ils ont beaucoup dépensé pour en arriver là aussi, c'est vrai. Et c'est pas un club qui rapporte autant d'argent malgré les droits de télé aussi que les autres gros en Angleterre. Donc moi je trouve que ce qu'il arrive à faire, c'est encore incroyable. Cette confiance qu'il arrive à donner à cette équipe là, les progrès individuels, collectivement. Bon, ça va, mais individuellement aussi sur certains joueurs. Morgan Rogers par exemple, qu'il est allé chercher en championship et à qui il a fait passer pas un mais deux voire trois paliers même, c'est assez incroyable. Et alors forcément sa légende à lui au club, si en plus il venait à remporter ce trophée là ce serait en plus incroyable, comme tu l'as dit, en plus une quatrième place et un retour en Ligue des Champions, un retour par rapport à la saison précédente en Ligue des Champions, ce serait aussi superbe. Mais oui, alors après on peut toujours débattre du fait qu'est-ce qu'il est fait pour ce genre de club là ou pour les très très gros clubs, peut-être pas Arsenal, le PSG, ça s'est moins bien placé qu'à Séville, Villarreal ou Aston Villa, mais pourquoi pas, hein, tous les entraîneurs ne peuvent pas non plus entraîner les très grands clubs, et ils sont très forts dans les clubs comme ça et pas assez forts pour les très grands clubs, c'est comme les joueurs, c'est pareil. Donc mais là vraiment ce serait une fin de saison juste incroyable pour eux, et forcément ils sont aussi favoris et ils le savent, donc à voir ce que ça va donner.
Fin de saison incroyable pour le football anglais, Julien, tu peux faire un triplé Arsenal Ligue des Champions, ouais. Crystal Palace en conférence et Aston Villa. Est-ce qu'il y aura un resto au bout? La question est celle-ci. Est-ce que tu vas enfin payer ce resto que tu nous dois tous depuis 10 ans? Ça, je crois que c'est pas gagné.
J'ai jamais trouvé un endroit assez grand pour tout le monde. C'est ça le problème, en fait. J'aimerais bien.
Ah oui, ça n'existe pas, évidemment.
Ah oui, donc je vais voir ce que je peux faire, quoi.
Bon. La minute, la troisième de la soirée, elle est italienne. On envoie la musique, Timothée. Oh, j'aime. Ah, ça me parle.
Ah oui. Et tu m'avais demandé, Nico, un peu de musique électronique.
Exactement, je suis servi. Merci, Daniel.
Ben ça, c'est Lori D, un DJ roman historique, un pionnier de la techno. Et les morceaux, ils s'appellent The Sound of Rome. Une ville magnifique, romantique, mais il y a toujours un arrière-plan, ce son métallique des conflits qui l'anime. Pendant ces derbies, on s'est surtout souvenu des conflits institutionnels qui sont ressortis. Parce que, comme il disait mon grand-père, je ne sais pas si on dit ça en français, les poissons pourrissent toujours par la tête.
Oui.
C'est-à-dire qu'on dit ça, les problèmes ils viennent de ceux qui sont au sommet.
Sauf dans le capitalisme.
Ouais.
C'est vrai, t'as raison. En général, la tête s'en sort bien.
Oui, ben, pas forcément dans les autres systèmes aussi. La tête, normalement, ça pourrit aussi. Mais en gros, il y avait ces derbies. On savait depuis le début de l'année que dans ce week-end, il y avait la finale du Master de Rome de tennis, donc la finale des Sinner. Mais personne s'est préoccupé de ça jusqu'à la semaine dernière, où ils ont plusieurs fois changé la date et l'heure du match. Ils ont essayé de jouer le lundi. Mais les supporters de la Roma, ils ont menacé de ne pas rentrer dans les stades. Les supporters de la Lazio, déjà, ils ne rentraient pas dans les stades parce qu'ils sont en polémique avec l'Otito. Et donc, la préfecture, elle craignait une guerre, en gros, en dehors de stade pendant les matchs. Et donc, ils ont dit, non, on va jouer le dimanche. Mais le dimanche, il y a les matchs de tennis. Donc, ils ont demandé à la Fédé italienne de tennis de décaler d'une demi-heure. Mais le président, Angelo Binaghi, il a dit, non, pourquoi c'est nous qui devons décaler? Pour les Italiens, c'est plus important, c'est meilleur que le football. Donc, c'est vous qui dégagez. Et après, il y avait les autres matchs, Milan, Juventus, à Naples aussi, qui devaient suivre les derbies. Donc, finalement, ils ont choisi cet horaire-là de midi, inhabituel. Il y avait une chaleur incroyable. Ils ont joué la Roma, Milan, Naples, ils jouaient tous à midi. C'était un emblème de cette saison fiasco. Il y a eu des problèmes institutionnels l'un après l'autre. Et on comprend de plus en plus que les problèmes du football italien ne naissent pas et ne meurent pas, surtout sur les terrains.
Voilà, c'est la musique électro, la minute électro de Daniele Manusia. Toujours 1-0 pour Arsenal face à Burnley. On fait une pause, on vient dans un instant, bien sûr. Il nous restera la minute de Julien, notamment. Et on va parler de Manuel Neuer avec Polo à la Coupe du Monde. Est-ce une réalité? Est-ce que l'Allemagne veut le voir aux États-Unis? Reste avec nous et avec les drôles de dames. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Edgar Grolot, Daniele Manusia, Paulo Breitner et Julien Laurent. C'est la mi-temps à l'Emirates. 1-0 pour Arsenal face à Burnley. Pour l'instant, Arsenal compte 5 points d'avance sur City avec une mi-temps en plus. City qui jouera Bournemouth demain, on l'a déjà dit. Tiens, je vois là sur X, Julien, le Daily Mail qui dit que Pep Guardiola va quitter City, ça y est, il quittera le club à la fin de la saison. Bon, tu l'avais déjà annoncé, c'est pas forcément officiel non plus, je sais pas ce que ça vaut le Daily Mail Sport, mon cher Julien.
Oui, enfin, le journaliste qui l'écrit est très bien informé en général, Oli Holt. Et de toute façon, on commençait quand même à le sentir de plus en plus, on en a déjà beaucoup parlé, j'en avais déjà parlé, on m'avait déjà parlé plusieurs fois de ça. Mais encore une fois, c'est dur de le confirmer aussi, mais c'était quand même un petit peu la tendance. Et ça pourrait se confirmer donc dimanche, forcément après la dernière journée, le dernier match qu'ils ont à domicile, tu l'as dit, contre Villa. Lundi, il y aura une grande parade, qu'ils soient champions ou pas. Lundi, ils ont les deux coupes domestiques à parader, je ne sais pas si on dit à parader, plus le titre de champion des filles aussi. Donc ce sera une parade garçons et filles. Et peut-être donc la dernière de Pep Guardiola comme entraîneur de Manchester City.
Bon, et puis rectification, Villarreal avec Emery, c'était face à United hein, en finale de Ligue Europa, bien sûr. Ouais. C'est bien
mais,
ça.
En tout cas, mais Unai était, enfin, il y avait une finale de pour Arsenal contre Chelsea.
Perdu avec Arsenal, c'est ça, voilà, contre Chelsea.
Avec Unai, c'est là où tu avais confondu.
Exactement. Alors, Polo, Neuer va-t-il jouer la Coupe du Monde avec la Nationalmannschaft? Gros débat chez toi. Mais d'abord, déjà, question préalable, va-t-il pouvoir jouer la finale de la Coupe d'Allemagne samedi contre Stuttgart? Il est sorti blessé ce week-end.
Alors, vous vous rendez pas compte ce qui se passe en Allemagne en ce moment? Parce que Sky Deutschland a sorti cette info, parce qu'eux le font passer pour une info, comme quoi Manuel Neuer sera dans la liste qui doit être annoncée jeudi avec Manuel Neuer, qui n'a pas joué avec la sélection allemande depuis le quart de finale perdu en prolongation contre l'Espagne à l'Euro 2024. Je vais être très très honnête avec toi, je ne l'ai pas vu arriver comme personne, même s'il y a eu des débats récurrents, savoir est-ce qu'il faut ramener Manuel Neuer. Lui-même, Manuel Neuer disait que c'était fini pour lui, et je vous rappelle son nombre de blessures. Et qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? À l'heure de jeu, il se blesse, et donc on ne sait même pas si Nagelsmann, en attendant évidemment de savoir exactement la blessure de Manuel Neuer, va annoncer ce jeudi que Manuel Neuer est dans la liste. En fait, et il y a un énorme débat en Allemagne, parce que, comment dire ça? Un, on ne comprend rien à la communication de Nagelsmann. Par qui, les journalistes, là, ils sont vraiment en colère. Par qui est-il drivé pour ce genre de communication? Que va-t-il se passer avec Baumann, qui a quand même été le gardien numéro un, parce que je vous rappelle que Ter Stegen est toujours blessé, etc. Et que Baumann, bah lui, il était pas au courant. Après la rencontre, on a posé la question à Manuel Neuer. Il a botté en touche, évidemment. Baumann est officiellement pas au courant, etc. Donc tout ça fait qu'on est dans une ambiance complètement délirante. Et il y avait un supporter de Hoffenheim qui, lui, ne comprendrait pas que Manuel Neuer revienne comme ça en équipe nationale, alors que lui-même dit qu'il a besoin de se reposer, etc. Et même Oliver Kahn, par exemple, dit « Mais c'est pas possible qu'il revienne en équipe nationale déjà par rapport au groupe qui s'est qualifié sans lui. » Ah oui. Et qui a besoin, encore une fois, qui est dans l'incapacité de jouer tous les 3 jours, 4 jours, 5 jours, à chaque fois qu'il a un problème physique. Et c'était un peu le résumé de sa saison. C'est pour ça qu'Urbich était très intéressant. Et si tu veux, il y a ce supporter d'Offenheim qui dit, mais pour faire de l'humour, de toute façon, on sait très bien que pour nous, pour l'équipe d'Allemagne, c'est fini en huitième de finale parce qu'on rencontre la France. Donc moi, je veux Baumann. Donc ça permettait d'éviter tous les débats. Et en fait, on est extrêmement surpris de ce timing. On ne comprend pas pourquoi Manuel Neuer, après une année en gros, à faire comprendre à tout le monde qu'il ne reviendrait plus en équipe nationale, serait à nouveau sélectionné par Julian Nagelsmann, qui est de plus en plus critiqué à la tête de la sélection parce qu'il a des problèmes avec certains joueurs, et notamment l'attaquant de Stuttgart, Undav. Et on ne comprend pas en fait ce qu'il fait au Nice, parce que on ne connaît pas encore le 11 de départ. Faut être très clair. On va aller dans une Coupe du Monde, l'Allemagne. Je serais pas surpris après ce qui s'est passé en 2018-2022. J'aurais tout vu avec la sélection allemande qu'on ait un vrai problème. Et imaginez que Baumann n'est pas au courant. Moi, j'apprends que je suis sélectionné. On me dit, on me fait comprendre que c'est moi qui vais disputer en numéro 1. On me dit, bah non, il y a Neuer qui revient. Bah,
oui, parce que Neuer vient, c'est pas pour être numéro 3, évidemment. Quoi.
C'est exactement, c'est tous ces problèmes-là. Alors, c'est délicat tout ce qui se passe en Allemagne. Et le fait que Manuel Neuer s'est blessé au mollet et ne devrait pas normalement disputer la finale de Coupe d'Allemagne contre Stuttgart, ce sera Jobbik, fait que on ne sait même pas si la liste de jeudi va être, son nom sera là. Donc c'est, tout ça fait que c'est délirant, mais c'est un vrai problème de communication, et je peux vous assurer qu'en Allemagne, là, les journalistes sont en colère, les experts sont en colère, parce que ce n'est pas tellement professionnel ce qu'il vient de se passer.
Voilà pour la liste à venir. Et celle de Thomas Tuchel, c'est vendredi, Julien, c'est ça, pour l'Angleterre?
C'est ça.
On a déjà parlé avec deux dossiers importants dans l'attente de la liste. Le cas Jude Bellingham, notamment.
Ouais.
Et le deuxième, c'était quoi, tu m'avais dit l'autre jour?
Trent Alexander-Arnold.
Trent Alexander-Arnold, bien sûr, exactement. Ouais. Il devrait y être, selon toi, ou pas, Alex Trent?
Trent, j'en doute. Bellingham,
Ce serait un séisme si ce n'était pas Bellingham.
Les deux un petit peu, hein, même Trent. Il y a beaucoup de gens qui ne comprendraient pas pourquoi Trent ne serait pas là. C'est quand même l'arrière-droit titulaire du Real Madrid et qui a tout gagné à l'âge de 24 ans, 25 ans dans sa carrière de club en tout cas. Ce serait quand même fou qu'il soit pas là, surtout quand tu vois, même si c'est des bons joueurs, les Livramento ou Konsa ou Rich James, c'est très fort quand même, mais avec les blessures on sait jamais trop avec lui non plus, mais ce serait très bizarre que Trent ne soit pas là. Pour Bellingham, on l'a déjà expliqué, on le redira vendredi soir s'il est pas là effectivement, mais même s'il est là d'ailleurs, c'était plus une question d'attitude que de talent. Le talent est là, il a un énorme talent, il y a rien à dire là-dessus. C'est plus dans ce qu'on a pu voir de son comportement dans les dernières compétitions, Euro et surtout Euro, mais Coupe du Monde aussi un petit peu, et puis depuis l'arrivée de Tuchel aussi, que c'est là où ça ouais. c'est le problème peut-être.
Pour l'Espagne, jeudi soir, hein, Edgar, ta liste, hein, c'est ça, hein.
C'est le 25, donc c'est lundi.
Ah oui, d'accord, c'est lundi prochain pour l'Espagne.
Ouais, c'est lundi, c'est à 12h30, voilà, lundi en milieu de journée. Et d'ailleurs, la mauvaise nouvelle pour les Espagnols, c'est que Fermín López est blessé, il ratera la Coupe du Monde, il va être opéré au pied droit, donc ça c'est un sacré coup dur. Et mine de rien, ça commence à faire plusieurs noms. Alors, il y en a entre ceux qui sont forfaits et ceux qui sont incertains, ceux qui vont revenir de blessure, etc. T'as quand même pas mal d'incertitudes autour de cette équipe espagnole.
Et Daniel, toi, t'as toujours pas de président de fédération, pas de sélectionneur non plus, tout va bien.
Toi la liste, toi.
Toi la liste, ça sert
non,
à rien.
Pas de polémique
pour
la liste,
course, toi.
Ben au moins il y a pas de polémique, tu sais, on est tranquille, on va faire un bel été, on va vous regarder jouer à 4h du mat.
Nico, j'ai oublié, excusez-moi, sur la sélection allemande d'Emmanuel Neuer, il y a eu un sondage Kicker sur donc par rapport aux abonnés, est-ce qu'ils voulaient le retour de Emmanuel Neuer, et c'est seulement 37% des interviewés qui le veulent.
C'est dingue.
C'est-à-dire que le cas d'Emmanuel Neuer, pour tout le monde, c'était réglé. Il n'était plus là. C'était vraiment, on ne comprend pas.
Ils avaient déjà tourné la page, pourquoi là.
Et oui, on ne comprend pas la séquence actuelle qu'il s'est passé. On a presque envie de dire, si Ter Stegen est blessé, c'est comme ça. Baumann a fait le taf en qualification. Pourquoi changer? Donc, voilà. Et à la rigueur, tu aurais pu penser, vu ce qui s'est passé au Bayern cette saison, les blessures de Manuel Neuer, d'avoir un duo avec Jobbik, qui est l'avenir du football allemand, et Manuel Neuer. Et tu aurais pu faire ça en Coupe d'Allemagne, et on se dit, de toute façon, on a un parcours qui va être compliqué avec la France en 8e. On va faire apprendre un petit peu. On a l'ancien qui est là et le nouveau qui pousse. Et en fait, Nagelsmann est très, très critiqué. Et je pense que c'est fini après lui, après la Coupe du Monde aux Américains.
On verra ça. Oui, Daniel.
Nico, par contre, si tu veux, j'ai vraiment une nouvelle sur l'équipe d'Italie.
Oui.
C'est-à-dire, vous savez, l'entraîneur qu'ils ont choisi pour le moment, c'est l'entraîneur de l'équipe de jeu, mais c'est un personnage polémique toujours et tout. Et il a dit que pour les matchs amicaux de juin, il va appeler l'équipe des jeunes. Donc on va voir l'Italie avec des.
Très bien, tout va bien. Tout va bien.
Ouais.
Et pourquoi ça?
Parce que en gros il a dit pour le faire montrer, pour le faire voir à l'entraîneur qui va venir. Mais c'est aussi un peu en polémique, je pense. Après ils ont dit aussi c'est bien parce que les joueurs italiens comme ça ils peuvent effectivement se décontracter, ça sert à rien, ça serait des matchs inutiles.
Oui, c'est des dates, des matchs imposés par dans le calendrier FIFA. Alors il nous reste encore une minute musicale à l'état anglaise. On envoie la musique s'il vous plaît pour Julien.
Texas, baby, 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 would you?
Tellement Julien Laurence.
Ouais, c'est The Ray, la chanteuse anglaise. Peut-être vous connaissez un peu ce style jazz, un peu pop, un peu tout ce que vous voulez. Worth It, donc, est-ce que ça valait la peine? Ça vaut la peine? Est-ce que ça valait la peine? Est-ce que ça valait la peine pour Southampton? Vraiment. D'envoyer leur, un de leurs analystes espionner l'entraîneur, l'entraînement de Middlesbrough. Rappelez-vous, on vous a raconté l'histoire la semaine dernière, lundi dernier, à la veille du match retour des demi-finales de play-off du Championship. Ce fameux Spygate, donc le je sais pas comment on traduit en français.
Ouais, l'espionnage, quoi, la polémique.
Ouais, le cas d'espionnage. Parce que Southampton s'est qualifié pour la finale du Championship, donc le match pour la montée contre Hull City, qui aurait dû avoir lieu samedi. Elle sera reportée, elle sera décalée, cette finale, le temps de cette enquête, de l'investigation sur ce cas d'espionnage, donc, qui pourrait coûter finalement très cher, parce qu'on se rapproche, en tout cas, de plus en plus vers ce qui pourrait être la vérité. Et que effectivement le cas d'espionnage est avéré, que le club était au courant, que Tonda Eckert, le jeune entraîneur allemand de Southampton, était au courant. Et dans ce cas-là, ça commence un petit peu à fuiter que les sanctions pourraient être énormes. On parle de suspension très longue, de plus d'un an de suspension pour l'entraîneur, pour le directeur sportif, un petit peu comme, si vous vous rappelez, aux Jeux Olympiques, dans le tournoi féminin, la sélectionneuse du Canada, qui avait aussi espionné avec un drone l'adversaire de son prochain match, a été suspendue pendant un an de toute compétition officielle à la tête du Canada. Ce serait un petit peu pareil. En plus, peut-être aussi de voir Southampton être exclu de ses playoffs, remplacé par Middlesbrough, qui donc eux joueraient la finale contre Hull City. Donc on n'est pas encore à la fin de l'histoire, mais on s'en rapproche. Et tu te demandes vraiment si ça valait vraiment la peine.
Exactement. Tout à fait, rien que pour ça. Merci les drôles de dames. Merci. Rendez-vous dans la semaine. Dans un instant, l'after avec Walid Acharchour, Daniel Riolo, Jean-Louis Tour, Manette. Bonne soirée à tous sur RMC.
Génération After.